Donc, je me présente, Nicolas Catin. Donc, je suis chargé de mission à l'Agence locale de l'énergie de Montpellier. Et je vais vous introduire et vous présenter donc les différents intervenants. Et puis, tout d'abord, donc ce Café Climat. Donc, 12e du nom, 12e Café Climat que nous organisons depuis maintenant plus de 2 ans que l'agence est créée. Donc, ce soir, le thème, donc les copropriétés, comment travailler sur la réduction des charges d'eau et d'énergie au sein de sa copropriété. Alors un petit zoom sur l'Agence locale de l'énergie, hein, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc nous sommes une structure associative mise en place il y a plus de 2 ans maintenant, à l'origine, à l'initiative pardon, de la ville de Montpellier, mais avec le soutien de divers partenaires, hein, donc la ville, l'agglomération, la région Languedoc-Roussillon, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec des fonds européens également et le soutien un peu plus récent du Conseil général de l'Hérault. Donc les pistes d'action de l'Agence locale de l'énergie, c'est d'informer, conseiller, d'être vraiment un outil local d'animation sur les politiques énergétiques des collectivités locales, donc en lien avec les particuliers. On a ce qu'on appelle un espace info-énergie au sein de l'Agence locale de l'énergie. Donc tout un chacun peut venir se renseigner gratuitement, prendre un rendez-vous, envoyer un mail, passer un coup de fil. Ça va, je dirais, les questions sur du changement d'ampoule jusqu'à l'isolation, au changement de chaudière, l'aspect technique et financier. On fait de l'information grand public, hein, comme ce soir, donc voilà la série des Cafés Climat. On a aussi une exposition, hein, qui tourne sur Montpellier et l'agglomération pour présenter les gestes économes en énergie et pour les petits achats pour économiser l'eau et l'énergie. On travaille également avec différents publics, hein, tels que les collectivités locales. Alors pas vraiment avec la ville de Montpellier parce qu'elle a déjà en interne un service énergie assez compétent, mais les communes autour de Montpellier n'ont pas forcément les compétences et le temps de travailler sur ces questions-là. Et donc on a quelqu'un chez nous qui est détaché pour les accompagner dans leur démarche. Et on est aussi présent donc sur les plans climat locaux, hein, donc la ville et l'agglomération. Donc l'idée, voilà, c'est d'être vraiment un acteur de terrain pour essayer de mettre en œuvre les politiques locales décidées par les élus. Voilà, on est sur l'esplanade Charles de Gaulle, hein, derrière l'office de tourisme, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, mais c'est mieux de prendre un rendez-vous si on veut une réponse, je dirais, à ces questions et pouvoir prendre un peu de temps avec des conseillers. Donc le programme de ce soir. Alors rapidement, je vais introduire un petit peu le sujet, hein, pourquoi on en est là à parler de copropriété et de consommation d'énergie. On écoutera ensuite Vanessa Barreau, il se présente. De l'association de consommateurs CLCV, à Consommation Logement Cadre de Vie, qui nous présentera un petit peu les déroulés, je dirais, administratifs et au niveau des assemblées générales et tout ce déroulé-là d'un projet d'amélioration énergétique en copropriété. On verra ensuite donc Flavien Bonnette de l'ARC, l'association des responsables de copropriété Provence Languedoc. Qui nous parlera du bilan énergétique simplifié. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant pour s'approprier un peu ses consommations, s'approprier et suivre ses consommations d'énergie. Ensuite, on a Laetitia Exbraya, alors qui doit être sur la route, du bureau d'études Socotec, qui va nous présenter en fait qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic énergétique. Donc là, c'est un second niveau, je dirais, d'analyse des consommations au sein d'un ensemble collectif privé. Et puis on détaillera ensuite les aides financières en copropriété. C'est aussi un volet qui est important et intéressant. C'est Justine Michaud de l'Agence locale de l'énergie qui nous détaillera, pardon. Et puis on verra ensuite avec la participation de Monsieur Muset, copropriétaire, président de conseil syndical, un retour d'expérience sur une copro neuve à Montpellier. Et puis moi, après, on finira par une ouverture sur quelques projets qui ont été réalisés, voilà, qui montrent qu'il y a quand même des choses qui se font. Voilà, alors rapidement, donc sur l'introduction, les enjeux écologiques et économiques entre copropriété et consommation d'énergie, si on remonte un petit peu, bah clairement, on en entend parler vraiment tout le temps, le réchauffement climatique, hein, les consommations d'énergie. Donc en haut à gauche, vous avez la fameuse courbe présentée par le GIEC. Alors il y a pas mal de débats en ce moment, mais bon, voilà, la majorité des scientifiques, malgré tout, s'accordent à dire qu'il y a une évolution de température qui est plutôt positive, enfin, qui est plutôt croissante, et que bah, malheureusement, ça va pas s'arranger dans les années à venir. Pourquoi, quand on regarde le bâtiment, le secteur du bâtiment, ça génère 23% des émissions de gaz à effet de serre en France, de CO2 en France. Et puis le secteur du bâtiment, lui, consomme à peu près 43% de l'énergie finale française. Donc c'est un gros secteur, ça a un gros poids. Et le souci, entre guillemets, c'est que le secteur des transports et le secteur du bâtiment sont deux secteurs qui ne font que progresser. Les émissions sont de plus en plus importantes, les consommations d'énergie sont de plus en plus importantes. Donc d'où l'intérêt de se pencher sur ces secteurs-là. Autre volet, parce que le réchauffement climatique, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde et que ce soit forcément un gros levier, notamment au sein des copropriétés. Je crois que voilà, ce qui nous attend au coin du bois, hein, c'est quand même clairement l'évolution du prix de l'énergie. Alors en haut à gauche, vous avez la variation comme ça en vert là du prix du pétrole en France. Hein, donc on voit le premier choc pétrolier, second choc pétrolier, Là, ça s'est arrêté en 2007. On était en plein troisième choc pétrolier. Alors, on l'a bien ressenti, hein, le baril qui est monté presque à $150, le prix de l'essence à la pompe, le prix du gasoil pour ceux qui sont du fuel, pardon, pour ceux qui sont chauffés au fuel. Donc là, c'est un peu l'affolement. Heureusement, c'est redescendu. Mais si on se projette un petit peu, et ça, vous avez en bas là, donc le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une structure qui est internationale, qui est pas vraiment, on va dire, qu'on peut pas vraiment taxer de pessimisme en général. Ils ont plutôt tendance à dire qu'il y aura toujours du pétrole, que c'est pas trop un souci. Et ben là, depuis quelques années, ils révisent un peu leur discours et ils font des scénarios aussi. Mais voilà, là vous avez simplement la différence de courbe. C'est c'est en dollars 2008 en constant et là c'est en courant. Voilà, c'est juste pour distinguer. Mais grosso modo, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est en fait la tendance. Hein, c'est clairement les prévisions des plus optimistes, on va dire, c'est quand même une tendance à la hausse du prix de l'énergie. Donc clairement, c'est ça qui va nous arriver, entre guillemets, dans les dents, dans les années à venir. Ça, malheureusement, c'est tellement variable qu'on ne sait pas trop quand. Mais ça va, c'est un peu le futur qui nous est prédit. Un petit zoom sur donc, les charges d'énergie en copropriété. Pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser ? Parce que là, c'est une étude menée par l'UNIS, hein, qui est un syndicat de syndics de copropriété sur à peu près 4000 copropriétés en France. Voilà, le résumé, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui ressort en tête, sans surprise, un chauffage et eau chaude sanitaire, c'est les postes de dépenses les plus importants. Alors, il y a d'autres chiffres, hein, c'est vraiment global, donc ça intègre pas mal de copro, donc c'est assez lissé. Et grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir. Donc, plus d'un tiers des charges sont liées en fait aux consommations d'eau et d'énergie. Donc c'est déjà assez conséquent. En moyenne, les charges en France pour un logement moyen, c'est grosso modo 2000 euros par mois. C'est de cet ordre-là. Par an, excusez-moi, 2000 euros par an. Voilà. Bon, c'est un peu variable encore, mais on peut retenir ce chiffre-là. Donc l'énergie, hein, c'est de l'ordre de 750 euros par an. Malheureusement, entre guillemets, c'est un budget qui est en constante augmentation du fait des hausses constantes des prix de l'énergie. Quelques chiffres clés, hein, si on zoome un petit peu sur Montpellier, il y a 142 000 logements là, d'après le recensement de l'INSEE 2008. Sur ces 142 000 logements, il y en a 85% qui sont du logement collectif. Donc sur la ville de Montpellier, clairement, l'enjeu, c'est le logement collectif. Hein, il y a 15% seulement de logements individuels. Et donc ça représente à peu près 120 000 logements. Et là encore, si on regarde sur cette proportion de 85%, voilà la répartition des dates de construction. Donc ça, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on remarque ? En gros, 50% du parc de logements collectifs de Montpellier a été construit avant 1975. Et 75, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entrée en vigueur de la première réglementation thermique dans la construction des immeubles. Donc avant 75, en gros, le mur, c'est un mur porteur, avec un peu de décoration éventuellement. Après 75, le mur devient porteur et il y a un ajout d'isolant. Donc donc la tendance, c'est la réduction des consommations. Et bon, voilà, donc ça représente, il y a à peu près 60 000 logements sur Montpellier qui sont très peu isolés. Alors, on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, je dirais, rentrer dans le détail des travaux et de ce qu'on peut faire vraiment. L'idée et l'intérêt des différents intervenants et puis des échanges qu'on va pouvoir avoir, c'est plutôt en fait de montrer plutôt une méthodologie. Mais pour pas vous laisser en reste et pour vous donner comme ça un peu une ouverture, voilà, ça commence déjà hein, quand on veut travailler sur les actions au niveau de sa copropriété. Je dirais qu'il y a déjà une démarche individuelle au sein de son propre logement. Si on n'est pas convaincu, si on n'a pas déjà, je dirais, si on n'est pas un peu déjà dans cet esprit-là, ça va être dur de convaincre l'ensemble des copropriétaires. Donc on peut déjà commencer au niveau individuel, hein, sur l'éclairage, les consommations d'eau, voilà, les toilettes, les veilles, bon, c'est des choses assez classiques qu'on entend beaucoup. Il y a après des démarches collectives, je dirais, qui sont entre guillemets de petit niveau, donc ça va d'un changement d'ampoule, un remplacement, on peut déjà passer sur un détecteur de présence, vous voyez, ça ne nécessite pas forcément de mettre en branle tout un processus de décision, isolation des canalisations, poser éventuellement des robinets thermostatiques, des horloges pour programmer l'éclairage ou des choses comme ça. C'est pour montrer qu'il y a déjà des petites actions qu'on peut faire. Et après, je dirais, le deuxième niveau, là, c'est plutôt des gros travaux. Donc là, c'est vraiment des investissements durables qui doivent être réfléchis, d'où l'intérêt avant de se lancer, de faire un bilan en interne, voire faire appel à des prestataires. Donc voilà, isolation par l'extérieur, réfection des terrasses avec étanchéité et bien sûr isolation, système de comptage individualisé, la ventilation, le changement de chaudière bien sûr pour gagner en performance, en efficacité, et bien sûr après les options solaires, thermiques ou photovoltaïques, mais qui sont, je dirais, dans l'ordre logique, plutôt à privilégier sur des choses une fois qu'on a déjà travaillé sur le reste. Je vais revenir sur l'introduction. Voilà, donc j'en ai fini pour l'introduction. J'accueille juste Laetitia Exbraya du bureau d'études Socotec, qui nous a rejoint, qui nous présentera donc plus en détail qu'est-ce qu'est un audit énergétique. C'est une petite place. Et je laisse la parole donc à Vanessa Barraud de l'association CLCV, de consommateurs CLCV.
Vous m'entendez? Non. Si. Là? Oui, là, moi, je m'entends. Donc, l'idée de cette présentation, ça va être surtout de vous proposer une façon d'arriver à amener ces questions de travaux qui, je vous apprends rien, peuvent, selon les travaux qu'on choisit, être coûteux, donc difficiles à faire voter auprès de tout le monde. C'est de vous donner une piste de comment on peut porter ce type de projet. Donc, en quelques mots, l'association CLCV, donc Consommation, Logement et Cadre de Vie, c'est une association nationale qui représente les consommateurs et les usagers auprès des institutions, qui existe pour informer, pour sensibiliser, et évidemment, le cas échéant, quand il y a besoin, défendre, les consommateurs au sens large, donc les copropriétaires aussi, et les usagers sur tous les thèmes liés à la consommation, au logement, au cadre de vie, etc. Et on a une petite section qui ne traite que de la copropriété, donc ça tombe bien, c'est le sujet du jour, et par exemple qui peut vous accompagner pour vous donner des pistes, des informations, vous informer sur la législation en vigueur par rapport à un vote qui va avoir lieu à la prochaine AG, etc. Je pense que tout le monde en a entendu parler, du Grenelle 2. Pour information, il a toujours pas été voté. Aux dernières nouvelles, il devrait être voté au 4 mai, donc on espère que ça va pas être reporté à nouveau. Mais en quelques mots, l'avantage que la copropriété va pouvoir trouver dans cette nouvelle législation, ça va être en particulier l'aménagement des modalités de vote pour les travaux d'économie d'énergie, puisque en fonction de la durée de retour sur investissement des travaux que vous allez faire, c'est pas la même majorité de vote, et au vu de la différence entre les deux, c'est beaucoup plus compliqué quand les travaux doivent être amortis sur plus de 10 ans pour arriver à les faire voter. Il va y avoir aussi l'introduction de la notion d'intérêt commun. En gros, ça voudra dire que, par exemple, à l'heure actuelle, on peut pas forcer un copropriétaire à changer ses fenêtres. Cette notion d'intérêt commun pourrait permettre justement d'arriver à forcer un copropriétaire à changer les fenêtres si il a été voté par l'ensemble de la copropriété, du syndicat, le changement des fenêtres pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Il y avait également quelques points qui avaient été soulevés pour introduire, en fait, ce qu'on verra un peu plus tard, suite à un diagnostic énergétique, la possibilité de mettre en place des plans de travaux, de pouvoir justement à l'avance prévoir sur plusieurs années les travaux que vous pourriez faire sur la copropriété, et surtout, comme je vous disais, d'alléger les problématiques de vote qui, je pense, doivent être connues de quasiment toutes les personnes présentes. Donc, comme je vous disais, là, l'idée, c'est de vous donner une piste de la démarche pour entamer ce type d'action. Ça va être long. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Ça se fait pas en un an. Ça se vote pas comme ça à la première assemblée générale. Et surtout, c'est quelque chose qui va forcément devoir être porté par le conseil syndical. Le conseil syndical doit être là, alors de manière générale et plus particulièrement sur cette problématique, être là pour sensibiliser, informer et impulser ce type de travaux. La deuxième phase, donc on va développer un peu après, ce sera donc, je vous disais, le premier vote en assemblée générale. Il va falloir commencer par voter un audit énergétique, parce que pour savoir quels travaux il faut faire, il faut déjà savoir ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, et du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en premier. Donc, comme on vous a dit, la personne, je me souviens plus de votre prénom, mais bon, Laetitia, vous présentera d'un point de vue plus poussé qu'est-ce qu'un audit énergétique, donc ça, on passera assez vite. La troisième phase, donc, ça va être le deuxième vote en Assemblée Générale. Il nous semble pertinent de vous faire accompagner, selon les travaux qui sont envisagés, par des maîtres, une maîtrise d'œuvre, et surtout de consulter des entreprises. On est bien d'accord que la première entreprise qui vient, c'est pas forcément celle qui va vous proposer le meilleur marché pour vous. Pareil pour la quatrième phase, donc là on arrive à la fin, la troisième assemblée, donc là je vous ai dit, c'est pas forcément, ça se fait pas en 6 mois, là on est sur 3 ans déjà. Là on va voter les travaux, le cas échéant, en fonction des travaux qui vont pouvoir être proposés, c'est voter un plan pluriannuel de travaux. La CLCV et l'Agence locale de l'énergie peuvent vous apporter des informations et vous donner des conseils sur toute cette démarche. Donc comme je vous ai dit, la première phase, ça va être sensibiliser. Je réitère, le conseil syndical est le moteur essentiel. Si le conseil syndical n'est pas motivé, s'il n'est pas là pour accompagner les copropriétaires, pour les informer de ce qui va se passer, il y a peu de chances que vous arriviez à faire voter des travaux. Il faut créer donc des conditions d'intérêt, et puis donc on en revient à ce que je vous disais, pour savoir quels travaux il faut faire, il faut peut-être commencer par savoir ce qu'on a chez soi. Chez soi à titre individuel et chez soi dans la copropriété. Donc voir l'isolation, l'équipement de chauffage, savoir si vous avez, vous arrivez à la 10e année, donc l'obligation de faire votre ravalement de façade. Il est peut-être intéressant de vérifier que poser l'isolation en même temps que faire le ravalement de façade ou la réfection de l'étanchéité des toitures, ça serait peut-être avantageux financièrement. Ça, c'est des choses qui se votent pas à la dernière minute, qui se réfléchissent pas à la dernière minute. Et commencer par un auto-diagnostic, donc le bilan qui va vous être présenté par Flavien tout à l'heure, est un très bon outil vous permettant justement de commencer à savoir ce que vous avez tout simplement. Les obstacles, ça aussi je pense que ça doit vous parler. Je vous refais pas les problématiques des travaux obligatoires comme les ascenseurs, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Le problème du financement, tout le monde va pas pouvoir avoir les fonds au moment où on va voter ça. Il n'y a pas d'épargne de travaux qui auront été créés à l'avance, donc on va être un peu piégé. Le propriétaire occupant, le copropriétaire occupant va probablement avoir peut-être plus d'intérêt à s'investir dans des économies de charges que le propriétaire bailleur. Propriétaire bailleur qui va pas forcément se déplacer à chaque assemblée générale. Non plus, je vous apprends rien. Le fonctionnement de la copropriété, donc ce que je vous disais, souvent un conseil syndical qui est pas forcément actif, qui est démuni face à la législation fort complexe. Et puis surtout des problématiques de gestion. Il a été souvent vu des copropriétés qui partaient dans des travaux pharaoniques et où en fait il suffisait simplement de commencer par régler la chaudière. Bon, ça c'est des choses que si on ne sait pas, on ne va pas le deviner. Et enfin, donc ce que je vous disais tout à l'heure, et là on espère que Grenelle 2 va nous changer la vie, vous devriez rencontrer des difficultés sur les règles de majorité, donc l'histoire des travaux amortissables sur plus de 10 ans avec la majorité à l'article 26, que peu d'entre vous ont dû réussir à avoir une fois. Donc voilà, la deuxième phase, vous avez vu, on a vu là, la première phase, ça va être vraiment de porter le projet, de réfléchir à qu'est-ce qui va être fait, et surtout comment arriver à le faire... à informer et à le faire comprendre et admettre par l'ensemble des copropriétaires. La deuxième phase, donc on parle de l'audit énergétique, en quelques mots, ça va surtout vous permettre, ce que je vous disais, d'engager une réflexion, de pouvoir vous dire est-ce qu'il faut commencer par mettre du photovoltaïque sur le toit, ou est-ce qu'il va falloir commencer par refaire l'isolation, ou est-ce que tout simplement mettre des ampoules basse consommation dans les communs, ou est-ce que... bon. Ça, c'est des points. S'il y en a certains d'entre vous qui sont thermiciens, tant mieux. Moi, je vous l'avoue que je le suis pas. Et je peux pas deviner des choses dont je n'ai pas connaissance et dont je n'ai pas les compétences. Donc, faire appel à des experts, à des personnes qualifiées, vous permettra de pouvoir d'autant plus comprendre et avoir de facilité à faire admettre à l'ensemble du syndicat les travaux qui seront nécessaires à la copropriété, de toute façon, à un moment ou à un autre. Donc ce que je vous disais, voilà, les préconisations de l'audit énergétique, ça vous permet d'avoir un véritable outil de réflexion par rapport au conseil syndical et de fait d'arriver derrière à obtenir la décision désirée face aux travaux voulus. Donc comment s'y prendre, c'est pas l'aspect technique puisque ça va être développé sûrement beaucoup mieux d'ailleurs, par Laetitia. Par contre, de pas oublier de commencer quand vous voulez faire un audit énergétique, de rédiger un cahier des charges. Parce que si vous prenez un auditeur, mais que vous lui précisez pas ce que vous voulez qu'il audite, il va pouvoir auditer plein de choses, mais ça vous servira peut-être à rien par rapport à vos besoins. Donc il y a par exemple le cahier des charges de l'ADEME qui peut vous servir de base, vous permettre d'avoir déjà un support existant. Donc la liste des bureaux d'études, ça aussi ça peut être intéressant pour trouver un bureau d'études. Et enfin, donc au niveau législatif, les votes, donc il faut faire voter la réalisation d'un audit énergétique. Il faut choisir le bureau d'études, ou alors on peut par exemple proposer la délégation au conseil syndical pour choisir ce bureau d'études. Pareil, il faut voter un budget pour cet audit énergétique, ça rentrera pas dans le budget prévisionnel classique. Et une piste, ça serait bien de voter aussi une épargne pour travaux. Ça pourrait vous aider par la suite. Donc troisième phase, la maîtrise d'œuvre. On vous disait, l'audit énergétique vous permet d'avoir donc une base, d'avoir réalisé entre guillemets un avant-projet sommaire, c'est-à-dire on va commencer par refaire, par exemple l'étanchéité de la toiture est prévue aux travaux dans 2 ans, donc on va en même temps profiter de refaire l'isolation de la toiture puisqu'on refait l'étanchéité. Idem, je vous parlais de l'exemple des ravalements de façade tous les 10 ans, si je vous le cite c'est pas pour rien. C'est bête de faire le ravalement de la façade et puis 2 ans plus tard de se dire tiens si on faisait l'isolation de la façade, c'est un peu dommage quoi. Donc pareil, on parlait là d'établir un cahier des charges et donc de lancer surtout la consultation des entreprises afin de pouvoir estimer la nature et surtout les coûts, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, des travaux. Là, on est toujours d'accord, c'est le conseil syndical qui fait ça. C'est pas un membre de la copropriété, c'est pas. Il faut que ce soit le conseil syndical qui porte ça, parce que si c'est pas le conseil syndical qui porte ça, on n'en est pas à la fin du diaporama. Imaginez en réalité la lourdeur de ce que ça peut être, et c'est pas une personne toute seule qui peut porter ce projet. Enfin, en tout cas, tant mieux si elle y arrive, mais peu de chance quand même que ce soit le cas. Et puis surtout, donc, quand vous en êtes arrivé là, vous avez enfin un avant-projet définitif. Cet avant-projet définitif va vous permettre de pouvoir aborder finalement les travaux. Je vous l'ai pas dit au fur et à mesure, mais c'est le conseil syndical qui porte ça. Par contre, il est quand même intéressant de temps en temps de prévoir d'informer les copropriétaires de la copropriété. Parce que si vous faites toute la démarche de votre côté et puis que vous arrivez au jour de l'AG et ou à l'ordre du jour, oui, les copropriétaires auront vu à l'ordre du jour le vote pour le travaux des isolations de la façade avec le montant qui va avec. Je pense qu'il y a peu de chances que vous ayez la majorité pour le coup. Donc là, c'est pareil. Les gens, s'ils sont informés au fur et à mesure, s'ils sont sensibilisés au fur et à mesure avec tout le travail qui aura été mené en amont et de fait qui vous permettra de pouvoir répondre à toutes les questions, combien ça va me coûter, mais moi qui suis plein sud, quel est l'intérêt d'isoler la façade? Oui, mais moi qui suis tout en haut, j'ai toujours froid l'hiver alors que celui qui est en bas près de la chaudière, il a toujours chaud. Enfin, des questions comme ça auxquelles vous serez amené. Vous serez amené à répondre, sauf qu'il vaut mieux les prévoir avant le jour de l'Assemblée Générale. Donc, on parlait de la troisième Assemblée Générale. Donc là, évidemment, c'est d'amener les conclusions qui auront été sorties de l'audit et au préalable de toutes les démarches qui auront été menées, de commencer à proposer des projets de travaux. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on met en deuxième? Et surtout de pouvoir communiquer sur les avantages, les coûts, etc. Exemple, est-ce qu'on réalise un bouquet de travaux ou est-ce qu'on reprend la performance énergétique globale du bâtiment? Ce qui peut être aussi intéressant, c'est non pas de faire voter un bouquet de travaux ou la globalité de la performance énergétique du bâtiment, mais pourquoi pas d'amener un vote sur un plan pluriannuel de travaux. Ça sera peut-être plus facile à digérer d'un point de vue financier, faut être honnête aussi. Et surtout, ça vous permettra pas mal d'avantages. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont listés, mais on peut en trouver d'autres. D'éviter de faire face à l'urgence, parce que la chaudière qui date de 60 ou 70, il y a des chances qu'à un moment donné, elle lâche. Hein. Elle a beau être bien, en mode marque, etc., bien entretenue, à un moment donné, il va falloir la changer. Si c'est prévu en amont, s'il a été prévu, s'il y a eu une épargne qui a été menée, qui a été montée, et que de fait, le jour où la chaudière elle lâche, ben, vous savez de toute façon qu'il fallait la changer, ben, ce sera peut-être plus intéressant de savoir ben, quel type de chaudière vous allez mettre. Est-ce que vous remettez une chaudière, bon, j'en sais rien, à gaz ? Est-ce que vous la couplez avec des panneaux thermiques ? Est-ce que vous individualisez le chauffage ? Ça, c'est des questions. Si c'est dans l'urgence, on va pas répondre. On va faire au plus vite, on va reprendre la même chaudière et on va pas chercher plus loin. Et on est reparti pour 15 ou 20 ans. Et bon, ça serait dommage de passer à côté de ça. Donc bon, d'arrêter les priorités de travaux, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Bon, de les échelonner sur plusieurs années. Ça vous permet aussi ben, de prévenir la dégradation, d'envisager et surtout d'améliorer la valeur vénale de votre bien. C'est un patrimoine. Un patrimoine, ça s'entretient. Là, on n'en parle pas. Grenelle 2 vous amène des facilités d'un point de vue vote. Je vous les ai citées, il y en a d'autres. Hein. Je ne vais pas vous faire la lecture du projet de loi, je vous assure, c'est pas agréable. Mais il ne faut pas se dire non plus que vous allez avoir des aides tout le temps. Je vous ai parlé des ascenseurs. L'ascenseur, je pense que beaucoup en ont souffert et en souffrent encore, d'un point de vue financier, j'entends. Le législateur, à un moment donné, il va plus donner des aides pour les travaux d'économie d'énergie. Il va trancher. Il va dire dorénavant, la réglementation thermique, ça va être ça. Vous allez être obligé de refaire l'isolation de votre façade parce que votre bâtiment, il date d'avant 70 et que personne n'a pris la peine de refaire l'isolation de la façade. Donc, vous allez vous retrouver dans la même situation d'urgence où il va falloir trouver quelqu'un qui le fasse, où on n'aura pas eu l'argent qui aura été mis de côté, où les aides n'existeront plus. Il faut pas vous leurrer, il faut vous y attendre. Hein. Au bout d'un moment, le législateur, c'est ce qu'il va faire. Hein. Ça, c'est en tout cas, je suis pas devin, pas présidente non plus, mais vu les tournures que prennent les discussions et les textes qui foisonnent, c'est sûr que ça va arriver, quoi. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, on le voit, il y a des aides aujourd'hui pour faire des travaux sur des maisons individuelles, par exemple, qui demain vont être rendues obligatoires par la réglementation thermique. Là, il y aura plus des aides. Oui, je me dépêche, Nico. La dernière, la bonne, ça y est, on y est arrivé, tout le monde a bossé, tout le monde n'en peut plus. La convocation à l'Assemblée Générale, je vous ai dit, c'est bien d'informer les gens, les copropriétaires au fur et à mesure. N'oubliez pas aussi quand même de leur envoyer la paperasse qui va avec. Surtout, de bien leur expliquer combien ça va coûter, combien ça va rapporter, quel que soit l'avantage, qu'il soit financier, écologique, patrimonial, etc. Et donc, une liste non exhaustive, je pense, de ce qui devra être mis au vote, le choix des travaux, le montant des travaux, le choix des entreprises, la période des travaux, les appels de provisions qui pourront être faits, etc., etc. Voilà, merci.
Merci Vanessa. Si je veux, ça me permet de résumer un petit peu. Donc, l'implication du conseil syndical, je crois que c'est essentiel et on va forcément y revenir. Et l'implication du conseil syndical, ça veut aussi dire, connaître aussi en interne ses consommations et commencer à s'approprier un petit peu ces questions, parce qu'on se rend compte que, les gens normaux parlent en euros et puis les thermiciens parlent en kilowattheures, en mètres cubes, en litres. Donc il n'y a pas forcément un bon dialogue. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde sur la même base et en tout cas de pouvoir discuter. Donc on va enchaîner ensuite. L'explication, je dirais, sur un outil qui est à disposition l'un des copropriétaires, qui est le bilan énergétique simplifié, avec une petite vidéo qui va vous présenter tout ça. Mais juste avant, je voulais revenir sur deux points. Donc on a prévu de finir vers 20h à peu près. Hein. Il y aura un pot pour boire un coup à l'extérieur, là, dans le bar. Donc ça permettra d'avoir des échanges. Parce que le sujet de ce soir, je vous cache pas, est assez dense. Hein. Donc on va quand même prendre quelques questions, mais on va essayer de restreindre un petit peu pour pas dormir ici. Et aussi, il y a beaucoup de... Pareil, hein, les PowerPoints qui vous sont présentés sont assez denses. Tout ça sera mis en ligne dans la semaine sur le site de l'Agence locale de l'énergie. Donc les documents qu'on évoque, le bilan énergétique sera aussi mis en ligne. Donc les contacts des intervenants, bien entendu, hein, nos contacts. Voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de l'ALE. Donc je vois qu'il y en a qui grattent à toute allure et c'est pour ça que n'hésitez pas à aller prendre tout ça sur Internet ensuite. Je ne sais pas si à ce stade on prend des questions. Je voudrais peut-être juste qu'on enchaîne à ce moment-là sur deux présentations, le bilan simplifié et l'audit. On fera un temps après de petites pauses avec des questions et après on enchaînera donc sur les aides financières et les retours d'expérience si vous le voulez bien. Je laisse la parole à Flavien.
Oui, bonsoir. Donc Flavien Bonnette, je suis salarié de l'Arc Provence, donc l'association des responsables de copropriété. C'est une association qui a été créée en 99 et qui est en fait la délégation régionale de l'UNARC, l'Union Nationale des Arcs, dont la première association, l'Arc Paris, a été créée en 1987 par Bruno Donte, qui est entre autres coacteur du Grenelle section bâtiment, donc coacteur à ce niveau-là. Le nombre d'adhérents, pour vous situer, juste pour vous présenter très rapidement l'association, c'est environ 500 à ce jour, juste sur le secteur de Marseille jusque Montpellier, en gros, ça représente environ 30 000 lots en copropriété. D'accord, merci. Je suis salarié donc sur le secteur de l'Hérault et du Gard. Il y a aussi deux autres salariés sur Marseille qui s'occupent des départements environnants, plus le membre fondateur qui est retraité et qui travaille plus qu'à temps plein sur l'association également. On est membre de la Commission nationale de la copropriété, donc installée auprès du ministère de la Justice, donc reconnue quand même par les institutions. Donc on dispense des informations dans les domaines comptables, juridiques, techniques, tout ce que peut être amené à faire le conseil syndical pour assister et contrôler le syndic, parce que c'est là ses principales missions. Et d'être force de proposition pour la copropriété également, donc là ça a vraiment été très bien développé. Donc c'est le conseil syndical qui doit être le moteur de la copropriété et le syndic l'exécutant. Dans l'idéal. Voilà, si vous voulez retrouver nos coordonnées, donc sur le site internet de l'ALE ou sur le site de l'UNARC, unarc.so.fr, ou depuis quelques jours, on a un site pour l'Arc Provence, donc www.arcprovence.fr, ou éventuellement, vous pouvez nous interpeller à la fin de la réunion. Donc, le bilan énergétique simplifié, c'est un guide qui présente en fait la méthodologie pour recueillir des informations sur les consommations d'énergie au niveau chauffage et eau chaude sanitaire dans la copropriété, entre autres. Donc c'est une méthodologie, donc vous suivez quasiment le guide, le sommaire, vous avancez pas à pas. On vous explique comment recenser des informations, regrouper les factures, comparer d'année en année les consommations à chauffe équivalente. Donc c'est détaillé, c'est dégrossi dans une vidéo qui fait 11 minutes et qu'on va voir tout de suite. Donc le guide est téléchargeable sur internet, donc il le sera sur le site de l'ALE et sur le site de l'UNARC. Il est soit téléchargeable au format PDF pour ceux qui le veulent directement sur l'ordinateur, ou commandable pour 2 € auprès de l'UNARC à Paris. Voilà, donc on peut passer directement à la vidéo, qui dégrossit la méthodologie employée pour faire son bilan énergétique simplifié.
Les bâtiments existants consomment à eux seuls 45% de l'énergie totale de la France et produisent 23% de gaz à effet de serre. Pour réduire cet impact, le Grenelle de l'environnement fixe un objectif de réduction des consommations d'énergie de 38% d'ici à 2020. Qu'est-ce que cela veut dire pour une copropriété ? En copropriété, les consommations d'énergie sont principalement dues au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Mais actuellement, quasiment aucune copropriété ne sait combien elle consomme pour se chauffer, et encore moins combien elle devra consommer en 2020 pour atteindre les objectifs du Grenelle. Dans ces conditions, comment réduire les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire ? Nous allons voir comment calculer ces consommations pour les réduire et atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Je viens vous voir parce que nous avons rencontré un problème chez nous. Mmh. On a nos charges de chauffage qui ont augmenté de 30%, ce qui n'est pas rien. Oui, 30%. Okay. Mmh. Et bon, on a une chaudière qui a 15 ans, donc elle n'est pas si vieille que ça. Ça devrait normalement marcher. Et la question qu'on se pose au conseil syndical, c'est ben, que faire pour économiser notre énergie.
Concernant vos consommations d'énergie, dites-moi un peu plus.
Justement, là, on a fait un petit tableau pour vous montrer, enfin en tout cas les dépenses, on n'a mm-hmm. pas les consommations, mais d'accord. uniquement les dépenses.
Alors, donc on voit uniquement ici des euros. Il n'y a pas assez d'informations pour comprendre cette augmentation de 30%. On a besoin de parler en kilowattheure et de récolter plus d'informations. Parce que là, on ne sait pas si l'augmentation est due à une augmentation du prix de l'énergie, si c'est dû à un hiver qui est plus froid. Ça peut être dû aussi à une surconsommation d'eau chaude collective. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un tableau qui soit un peu plus détaillé, en tout du moins pour le poste chauffage.
Quels sont les renseignements dont vous avez besoin, parce que j'ai l'impression que ça se complique un petit peu plus par rapport à ce que je m'attendais là.
Alors ne vous inquiétez pas, pour y voir clair, on a rédigé un petit guide qui s'appelle le guide du bilan énergétique simplifié, dans lequel est détaillé toutes les étapes à parcourir pour bâtir votre tableau de bord énergétique. D'accord. Donc les grandes opérations pour faire ce tableau de bord, c'est récupérer ses factures d'énergie et ses consommations d'eau chaude pour pouvoir faire le distinguo. Donc on prend en compte la rigueur de l'hiver. Ensuite, faire un tableau avec ces données sur plusieurs années pour bien voir l'évolution et que vous pourrez analyser.
Si le conseil syndical ne conserve pas un double des factures, il doit prendre contact avec son syndic. C'est lui qui est responsable de l'archivage des factures. Bonjour, monsieur Dos Santos.
Bonjour.
Donc ici, nous sommes dans la salle d'archives de votre syndic. Donc, quel genre de documents est-ce qu'on vous demande pour un bilan énergétique ?
Donc, les documents demandés sont tout ce qui est facture chauffage, facture eau et les contrats de chauffage.
Et retrouver ces documents, pour vous, ça vous demande du temps ?
Après, tout dépend. S'il y a des priorités ou des urgences, ça peut être quelques minutes ou voire un ou deux jours.
Très bien, merci beaucoup. Donc on voit que c'est pas si compliqué que ça de retrouver les documents pour le bilan énergétique.
Ok, j'ai donc juste à demander mes factures de gaz, tracer mes courbes et j'ai mon bilan énergétique simplifié.
Presque. Il reste cependant quelques étapes avant d'avoir fini votre bilan. Il faut séparer les consommations de chauffage des consommations d'eau chaude.
Bonjour Renaud.
Alors, vous en êtes où ?
Ben voilà, j'ai établi, selon vos conseils, le premier bilan énergétique simplifié. Et regardez la courbe que j'obtiens.
Ah, vos consommations sont en légère hausse.
En effet, mais regardez ce que ça donne lorsqu'on tient compte de la rigueur de l'hiver. Et la hausse est beaucoup plus importante.
Vous disposez donc maintenant de chiffres solides. Et on voit qu'il y a une grave anomalie. Il va donc falloir comprendre pourquoi.
J'ai déjà commencé, j'ai demandé à mon chauffagiste de passer, d'autant plus que la consommation s'établit à 250 kWh par mètre carré.
250 ? Mais c'est beaucoup trop important. Un immeuble comme le vôtre consomme environ 200 kWh par mètre carré. Avec un bon suivi et en limitant les surchauffes, vous y arriverez très facilement. Et notez qu'en 2020, vous devrez consommer 150 kWh par mètre carré. Et pour y arriver, il faudra bâtir un vrai plan d'économie d'énergie.
Que pensez-vous de la démarche du bilan énergétique simplifié ? De votre point de vue, qu'est-ce qu'elle apporte aux copropriétés ?
Alors le métier de syndic est un métier très varié puisque nous avons vocation à traiter plusieurs domaines. Nous ne sommes pas des spécialistes en matière de chauffage. Le bilan énergétique simplifié nous permet aujourd'hui de mieux gérer le volet combustible des budgets des différents immeubles que nous gérons. Puisqu'aujourd'hui, force est de constater que les postes combustibles s'envolent dans les différentes copropriétés. Les codaires sont très sensibles, bien évidemment, à ce poste-là. Donc ça nous amène à mieux gérer l'énergie et par là même à avoir une vision beaucoup plus agréable au sein de la copropriété, puisque qui dit diminution des charges dit une ambiance meilleure entre les différents résidents.
Au niveau des consommations d'énergie, ces dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution dans les copropriétés que vous gérez ?
Oui, alors on en a constaté une augmentation considérable du post-combustible. Si on évoque que le tarif, par exemple, du gaz, il a augmenté de près de 46% sur les trois dernières années. Et d'une manière générale, toutes les énergies sont envolées. Donc c'est un poste très important et qu'il faut gérer, et avec l'aide d'ailleurs des conseils syndicaux, puisque certains copropriétaires ont pris la décision de gérer ce poste avec nous au quotidien.
Le bilan énergétique simplifié est un outil très efficace. Un outil de maîtrise des charges avec une démarche structurée et qui apporte également un langage commun. Et ce langage commun facilite un dialogue constructif adulte-adulte dans toutes les relations avec les exploitants de chauffage ou les fournisseurs d'énergie.
Donc avec ce bilan énergétique simplifié, on pourrait presque se passer de bureau d'études thermiques ?
Pour la première partie qui est la collation des données, qui n'apporte pas une véritable valeur ajoutée de la part du bureau d'études, le BES est la réponse effectivement idéale pour les copropriétés. Maintenant, les objectifs du Grenelle sont très ambitieux. Il ne s'agit pas de se limiter à l'acte de connaître, qui est très important, mais il faut aussi l'expertise du bureau d'études qui va définir les programmes de travaux, qui va mettre en place les conditions d'obtention des résultats, la vérification de l'obtention de ces résultats, et puis ne pas oublier aussi les entreprises et les fournisseurs d'énergie qui vont être aussi des acteurs importants dans ce cadre. Au bureau d'études qui pourraient avoir envie de conserver leur précaré, je leur dirais, n'ayez pas peur, finalement vous avez tout à gagner à partager votre savoir-faire dans le cadre d'un dialogue constructif qui va améliorer vos performances et la qualité du travail que vous allez réaliser dans les copropriétés. Donc il faut effectivement promouvoir cet outil qu'est le BES.
Bonjour, vous êtes conseiller Info Énergie. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos actions en direction des copropriétés ?
Bien sûr. Si vous voulez, dans un premier temps, l'objectif va être de bien préparer le projet de la copropriété. Pour cela, on va dans un premier temps réaliser un bilan énergétique simplifié pour d'une part permettre aux responsables de la copropriété de s'approprier la problématique énergétique, d'estimer les performances énergétiques de la copropriété, de mettre en place un tableau de bord des consommations, d'étayer des arguments pour faire accepter par la suite le projet à l'ensemble de la copropriété et au final de préparer le terrain à un bureau d'études qui pourra réaliser un audit énergétique plus étoffé. Sur la base de ce bilan, la copropriété va pouvoir définir précisément son projet d'amélioration. Ensuite, nous allons l'aider à rédiger son cahier des charges pour consulter des bureaux d'études qui réaliseront un audit énergétique plus étoffé, qui lui va permettre d'identifier des gisements d'économie d'énergie et de proposer un programme d'amélioration énergétique. J'ai l'exemple d'une copropriété qui a réalisé cet audit et pour lequel le bureau d'études a identifié plusieurs préconisations importantes, à savoir l'isolation. Donc on va avoir sans doute un achat groupé de fenêtres, renouvellement d'air, le changement du système de chauffage, qui au final vont permettre sans doute de répondre aux attentes, aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Donc l'objectif est véritablement de proposer un accompagnement aux copropriétés qui leur permette de mettre en place un programme ambitieux, cohérent et échelonné.
Je ne regrette pas d'avoir fait mon bilan énergétique simplifié. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le chauffage. Bon, dans un premier temps, ça nous a permis de s'apercevoir que nous avions une surconsommation. Et puis, maintenant, je sais bien que 250 kWh par mètre carré, c'est une consommation trop importante pour un immeuble comme le mien.
Et pour atteindre les objectifs du Grenelle, vous devrez atteindre 150 kWh par mètre carré en 2020.
Et pour cela, on compte bien mettre en place un plan d'économie d'énergie pour y arriver. Et mon tableau de bord, je l'espère, nous permettra de constater que les économies sont au rendez-vous.
Exactement. Et maintenant, en route vers le Grenelle.
Alors, pour conclure, je vais juste vous présenter rapidement le sommaire du BES. Première partie, le problème du comptage. On peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs situations possibles selon les copropriétés. Deuxième point, connaître les consommations globales et énergétiques de l'immeuble, donc recenser les factures et faire un suivi, enfin recenser les infos sur plusieurs années par exemple. Troisième point, connaître précisément les consommations d'eau chaude et les différencier des consommations de chauffage. Calculer les consommations par DJU, donc degrés jour unifié, donc à chauffe équivalente, température extérieure équivalente pour se chauffer à l'intérieur. Ramener la consommation pour le chauffage par mètre carré chauffé, c'est le point le plus important. Et donc après, se situer, comparer, savoir comment on se situe, si on est déjà bien positionné ou s'il y a des choses à revoir sur l'installation. Donc après, deuxième partie, on peut voir différents cas de figure de difficultés pour recueillir les données dans l'établissement du tableau de suivi et des graphiques, etc., etc. Des exemples de tableaux. Après avoir fait le BES, vous pouvez avoir une courbe où vous voyez que la consommation augmente d'année en année. Donc, il peut y avoir un déséquilibre au niveau de l'installation du chauffage, par exemple. Vous pouvez voir qu'il y a une augmentation brutale et puis ensuite une stabilisation, donc voir pourquoi également. Vous pouvez avoir une consommation en dents de scie, donc là généralement c'est le chauffage qui est mal géré par le prestataire de maintenance. Et voilà, merci pour votre attention.
Peut-être une précision par rapport à ce qu'on a vu. En fait, on établit ce qu'on appelle le coefficient Z, là. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait éliminer ce qu'on appelle la rigueur climatique. Parce qu'il y a une année ou une autre, on peut consommer plus, mais ça peut être simplement dû au fait que l'hiver a été plus froid. Donc bah, forcément, proportionnellement, en toute logique, on a dû consommer plus. Il a fait plus froid, la chaudière a fonctionné plus souvent. Mais par contre, parfois, on a des dérives. Donc l'intérêt en fait de faire ce coefficient-là, en fait, c'est d'effacer, si vous voulez, la rigueur de l'hiver et de prendre en compte vraiment à hiver égal, de ramener ça sur un hiver standard et de regarder un petit peu l'évolution. Et donc après, bah, ça permet de mettre en évidence effectivement des dysfonctionnements. On va enchaîner donc sur qu'est-ce qu'un un diagnostic énergétique, parce que faut bien faire la différence. On a vu le bilan énergétique. Donc ça, c'est vraiment un outil d'appropriation des gens, de la copropriété, des copropriétaires sur leur consommation d'énergie. C'est pas un diagnostic fait par un bureau d'études. Donc c'est pas une prestation que ce qu'on va voir juste après. Et c'est qu'on dit bilan énergétique simplifié, c'est plutôt un outil de suivi. Hein. C'est pas, on fait pas le bilan une fois pour toutes. En fait, c'est un outil qui va accompagner la copropriété durant toute sa vie. Et vous avez vu, hein, les courbes, elles sont faites sur plusieurs années. Donc voilà, le travail, il n'est pas fini. Et puis même une fois qu'on a établi des choses, qu'on a vu des dysfonctionnements, si derrière on a fait des travaux, eh ben, on va continuer justement le bilan pour bien vérifier ce que nous a dit le professionnel, à savoir, ils sont bien vérifier que la courbe va descendre parce que la consommation devrait être plus basse. Quoi. Voilà. On fait juste le distinguo. On laisse donc la parole à Madame Expraya de la société Socotec. Et puis après, bien sûr, on prendra un temps d'échange parce que c'est vrai que je voulais rappeler au début, tout ça est très dense.
Bonjour, donc Laetitia Expraya, je travaille chez Socotec. Pour vous faire une petite présentation rapide, donc nous sommes prestataires de services dans le bâtiment et la construction, mais aussi sur divers secteurs. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui a trait donc à la maîtrise de l'énergie et à la qualité environnementale dans les constructions, donc un secteur qui est très important chez Socotec. Je relève la conclusion sur le bilan énergétique simplifié. C'est en effet pour nous un outil qui est très intéressant et qui serait une parfaite introduction à un audit énergétique. Je voulais juste vous rappeler un peu le contexte dans cette présentation. Donc l'idée en fait c'est que on a déjà une réglementation thermique dans les bâtiments existants qui n'était pas effective jusqu'à 2007, l'année de sa sortie. Donc ça a été une première nouveauté qui fait qu'aujourd'hui, quand vous lancez un programme de travaux, déjà il est soumis donc à une réglementation. Vous ne pouvez pas remplacer votre fenêtre par n'importe quelle fenêtre ou mettre en place une isolation qui n'a pas une certaine performance énergétique. Donc ça a été la base. Bien sûr, il y a aussi le contexte du Grenelle de l'environnement qui a été déjà présenté plusieurs fois. Grenelle qui, en fait, nous apporte des objectifs sur la performance énergétique en rénovation, mais qui aussi apporte une notion de dépréciation de la valeur du patrimoine du fait de la meilleure performance énergétique dans le neuf. Je m'explique, aujourd'hui, le neuf, l'objectif, c'est d'avoir une consommation de l'ordre de 40 kWh par mètre carré par an, alors qu'on vient de voir une moyenne de parc autour de 200 kWh et un objectif dans l'existant de remonter à 150. Donc, une démarche de maîtrise de l'énergie, c'est aussi penser à la valeur de son patrimoine. Dans le cadre de la réglementation thermique dans l'existant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fonction du montant de travaux que vous avez lancés, de la rénovation, vous avez soit une réglementation thermique globale à respecter, où il y aura un calcul à faire réaliser par un bureau d'études thermiques, soit vous êtes sur une réglementation thermique qui est dite par élément, où on retrouve des exigences déjà sur différents éléments qui peuvent être traités un par un. Donc l'enveloppe, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'isolation, aux menuiseries, à la toiture, les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, ventilation, éclairage et éventuellement équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Donc, on va se concentrer principalement sur notre sujet, l'audit énergétique. Le but, c'est de vous décrire un petit peu notre méthodologie de travail. D'abord, on a une ligne de conduite, c'est la démarche Négawatt. Négawatt, donc, est une association de professionnels dans la maîtrise de l'énergie qui présente cette démarche où la première étape est de dire on cherche à être sobre, c'est-à-dire on cherche à économiser sur les postes de consommation d'énergie qui dérivent. D'autre part, on cherche à être efficace, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre plus efficaces les équipements existants ou de choisir des équipements thermiques plus efficaces. Enfin, et seulement en dernier lieu, on se posera la question d'intégrer des énergies renouvelables dans le bâtiment. Mais l'idée, c'est bien d'abord de réduire la demande dans le bâtiment, aussi bien par ces éléments techniques que par le comportement des différents usagers. Et enfin, on interviendra sur cette partie énergie renouvelable. L'audit énergétique, son objectif, donc, c'est d'effectuer une quantification précise du potentiel d'économie d'énergie dans votre bâtiment et de déterminer toutes les modifications qui seront à apporter pour réduire vos consommations. Pour en arriver là, d'abord, on va réaliser un état des lieux du bâtiment, c'est-à-dire qu'on vient sur site, on vient rencontrer donc le conseil syndical, auquel on va demander les factures énergétiques sur les trois dernières années. On les prend de manière assez globale. C'est sûr que si vous avez fait un bilan énergétique simplifié, nous, ça nous facilite énormément cette première étape. Souvent, c'est la croix à la bannière pour récupérer toutes les factures. Ça nous prend déjà du temps. On va essayer de récolter éventuellement des plans disponibles puisque on va avoir besoin de métrer directement les différentes pièces ou les différents éléments techniques qui constituent votre bâtiment. Et on va faire donc une visite détaillée pour voir un petit peu est-ce qu'on peut déterminer l'épaisseur de l'isolant, est-ce qu'il y a certaines menuiseries qui peuvent être différentes. Comment s'organise ce bâtiment ? Est-ce qu'on a une façade qui est lisse où on va pouvoir poser une isolation par l'extérieur ou est-ce qu'on a des décrochés qui ne nous permettront pas d'envisager cette solution ? L'idée, c'est vraiment de prendre connaissance donc des éléments constitutifs de votre bâtiment. Derrière, ça va aussi être de rencontrer le conseil syndical, les divers occupants et d'essayer de voir quelles sont les conditions d'utilisation du bâtiment. Est-ce qu'on est sur un 50% de résidence principale ou est-ce que tout le monde vit là à l'année? Est-ce qu'il y a des vacanciers qui viennent? À quelle période sont prises les vacances pour qu'on puisse vraiment identifier où sont un petit peu les dérives de consommation d'énergie en étudiant les différentes factures. Pour compléter notre analyse et notre état des lieux, on réalise une campagne de mesures. Donc c'est des mesures de type caméra infrarouge pour identifier éventuellement les fuites de chaleur dans l'isolation. Ça va être des mesures de combustion d'une chaudière pour vérifier sa performance au niveau de ses émissions de fumée. C'est donc les mesures qui sont adaptées finalement aux différents équipements techniques que vous avez dans vos bâtiments. Donc notre méthode d'intervention est toujours décrite dans un cahier des charges détaillé. sachant qu'on est basé, et je parle à ce niveau-là pour bon nombre de mes confrères, sur le cahier des charges de l'ADEME tel qu'il a été présenté par Vanessa, qui est donc vraiment la référence pour ces audits énergétiques aujourd'hui. En deuxième étape, on va, une fois qu'on a récolté toutes ces informations, on a récupéré beaucoup de documents, on a pris des photos, ben on revient au bureau et ces données, ben on va les collecter et les traiter à l'aide d'un logiciel. Donc c'est un logiciel interne qui va nous permettre donc d'établir le bilan énergétique, c'est-à-dire de voir par rapport aux éléments constitutifs du bâtiment quelle devrait être sa consommation théorique et de comparer ce résultat avec les factures énergétiques pour pouvoir justement identifier les différents postes où il y a des dérives de consommation et donc sur lesquels on va devoir travailler. À partir de ce bilan énergétique, on va proposer des programmes de travaux qui seront échelonnés sur plusieurs années et en fonction en fait de la demande du conseil syndical. Mais l'idée, c'est que poste par poste, on va proposer donc des travaux et simuler à l'aide donc de notre outil informatique les économies d'énergie que vous pouvez espérer en fonction de la mise en œuvre d'un type de travaux. En étape 3, donc sur cette proposition, l'idée c'est qu'on va venir présenter nos résultats en réunion, puisque le but c'est vraiment d'avoir un échange, d'abord d'être sûr que les programmes de travaux proposés sont cohérents avec vos objectifs, de voir s'il n'y a pas une piste qu'on n'a pas étudiée et que vous souhaiteriez qu'on étudie. Et puis surtout pour qu'on puisse vous l'expliquer plus correctement, puisque on sait qu'on a souvent un langage très technique et qu'il faut essayer de l'expliquer pour que le message passe. Donc le rendu qu'on vous fait, c'est un rapport d'audit énergétique. L'objectif, c'est d'avoir une synthèse de résultats où vous pouvez retrouver donc vos consommations avec des visuels tels que vous retrouvez. Donc sur la partie droite, on va avoir un niveau de consommation existant avec un niveau d'émission de gaz à effet de serre. Et puis par assemblage de travaux, eh ben on vous présente une nouvelle performance énergétique du bâtiment. Par ailleurs aussi, on va pouvoir retrouver sur la gauche des photos du bâtiment qu'on a audité avec la répartition donc des postes de consommation d'énergie pour que vous puissiez voir en fait quels sont les postes qui sont les plus consommateurs dans votre bâtiment et quelles sont les actions. Donc il y a une première synthèse des résultats qui se veut facile à lire et facile à comprendre et à utiliser pour le conseil syndical, mais il y a aussi derrière un compte-rendu détaillé de notre intervention où vous retrouvez étape par étape toute la production qu'on a pu faire, aussi bien sur l'état des lieux que sur les différents feuillets issus de notre logiciel. L'audit énergétique, donc c'est une prestation qui idéalement se réalise sur l'hiver pour qu'on puisse faire des campagnes de mesure sur les chaudières en fonctionnement, mais qui peut aussi se faire l'été, surtout si vous êtes sur des installations électriques. C'est une prestation qui nous prend à peu près au moins 10 jours de travail, c'est-à-dire qu'on table sur des montants de prestations qui sont compris entre 5 000 et 10 000 euros en gros. Selon la taille de votre bâtiment. Donc le montant de cette étude, il est financé par l'ADEME quand on suit le cahier des charges, en tout cas pour le moment, à hauteur de 50% minimum, ça va régulièrement jusqu'à 70%. Donc ça vous permet de faire une démarche à un coût plus raisonnable, d'autant qu'après, quand c'est réparti par appartement, ça descend très vite à 30 euros par appartement, l'audit énergétique effectivement payé. Donc ça vous permet d'avoir un véritable outil à un coût très raisonnable. Et donc voilà pour le rapport. Donc bon, là c'est... L'idée, c'était de vous dire que quand on planifie donc ces travaux, on est en effet sur une démarche. Je rejoins un peu ce que Vanessa vous a déjà présenté. Nous, sur quoi je souhaitais insister, c'est en effet dans les étapes de la mise en œuvre. Une fois que l'audit énergétique est fini, vous avez une première proposition de programme de travaux. Mais à partir de ce programme de travaux, il va falloir encore monter un cahier des charges pour les entreprises, monter des dossiers de demande de subvention, puisque selon le type d'équipement que vous souhaitez mettre en œuvre, il y a possibilité d'appeler des subventions. Il faut consulter les entreprises, assurer un suivi de chantier. Il y a des étapes qui sont techniques, où non seulement on a une spécialité énergétique, mais aussi des désordres techniques qui peuvent intervenir sur le clos et le couvert. Donc c'est vraiment important d'être accompagné, donc soit par une équipe de maîtrise d'œuvre, soit par un assistant technique, mais vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner, puisque c'est des étapes très importantes et qui peuvent remettre en cause tout un projet qui prend déjà beaucoup de temps à être mis en œuvre. Pour vous présenter rapidement quelques exemples de solutions, souvent on entend parler d'isolation thermique par l'extérieur quand on veut améliorer la performance énergétique de son bâtiment. Oui, mais ça c'est valable bien sûr en fonction de vos façades, parce que ce sera pas toujours efficace. Il faudra aussi faire attention aux désordres techniques si vous avez déjà une isolation par l'intérieur qui est prévue, parce que là ça peut empêcher l'air de filtrer et ça peut donc abîmer votre béton ou le matériau qui constitue votre façade. Par contre, c'est tout de suite très intéressant sur un pignon aveugle, puisque là, on va pouvoir le mettre en œuvre très facilement et ça va pouvoir donc renforcer l'isolation de ce pignon. Donc, on vous présente des coûts. Donc ça, c'est le coût de l'isolation thermique par l'extérieur. Vous le complétez avec le ravalement de façade à peu près par 50 euros par mètre carré. C'est donc une base de données issue de nos retours d'expérience. Ensuite, il y a la partie étanchéité de toiture terrasse inaccessible. Donc où soit on va pouvoir enlever le complexe existant ou bien simplement rajouter une partie d'isolation. Là, c'est souvent un poste qui est à traiter en priorité, puisque c'est un des postes déperditifs les plus importants après les façades. Le double vitrage est aussi une solution très efficace. Attention, c'est assez onéreux, mais ça fait partie de points qui seront abordés dans l'audit énergétique. Attention au point de condensation. Je vous dis, à chaque fois qu'on traite un point d'un point de vue strictement énergétique, il y a d'autres désordres qui peuvent se créer. Par exemple, quand on change les menuiseries, il nous est arrivé de venir faire ensuite un audit technique où on se rend compte que il y a eu des points de condensation et ça a abîmé les cadres et les murs autour. Donc finalement, vous avez fait une amélioration, mais ça a dégradé la qualité de votre bâtiment, quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir un appui technique à côté. Et puis enfin, on peut regarder l'intégration d'énergie renouvelable avec donc le CS solaire qui peut être un point intéressant. Je vous laisserai le regarder via le site internet donc de la LE pour regarder notre diaporama. Mais en conclusion, donc l'audit énergétique, c'est une démarche générale de valorisation du patrimoine où vous raisonnez à long terme en anticipant les prochaines réglementations et où en fait vous avez une première approche avec quelqu'un qui a une vision technique globale et qui va pouvoir vous proposer des solutions qui seront cohérentes au niveau aussi bien du bâtiment que des équipements, quoi. Et puis faire cette démarche aujourd'hui, c'est anticiper la réglementation et c'est encore avoir la possibilité d'obtenir des subventions. Donc c'est le moment de s'y mettre. Je ne l'ai pas rajouté ici, mais il y a aussi une urgence climatique qu'il ne faut pas oublier et ça fait partie donc d'une démarche citoyenne que je vous encourage également à faire.
Merci beaucoup Laetitia. On va prendre quelques questions. Il y a un micro qui est là. Est-ce qu'on peut le faire tourner dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce qu'on a entendu? Il y avait une question devant monsieur, et puis il y aura un monsieur. Il y avait monsieur au deuxième rang, là, à gauche. Et monsieur là-haut avec des lunettes qui a levé la main. Avant de vous laisser la parole, juste, il y a un petit. Une petite feuille qui tourne, en fait, pour vous laisser. Voilà, ça tourne dans le public. Pour vous permettre de laisser des appréciations, vos coordonnées, si vous souhaitez être tenu informé des actions de l'agence. Pardon, merci.
Bonsoir. Raymond Gimilio, président conseil syndical Le Coureau à Montpellier. Je viens de prendre en main le conseil syndical il y a 3 mois et on s'est fait communiquer rapidement par le syndic les factures sur 2 ans. Bon, on va lui demander la 3e année. Donc on était déjà engagé dans ce type de démarche. Il faut savoir que je suis écologiste et que j'ai derrière moi 19 années de carrière au ministère de l'Environnement. Et il y a déjà de ça quelques années. Et que j'ai quand même quelques petites compétences en matière technique. Donc la question, c'est, on voit régulièrement revenir le problème de la transformation des chauffages collectifs en chauffage individuel. Or, moi, je sais, par les enseignements qu'on m'a donnés, que plus une installation thermique est petite, plus mauvais est le rendement de l'installation. Donc, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Moi, c'est mon enseignement universitaire qui m'a appris que plus une installation thermique était grosse, meilleur était son rendement.
Alors, sur le côté effectivement rendement et performance, effectivement, c'est toujours dans l'absolu mieux de mutualiser, d'avoir une seule chaudière à entretenir, avoir un suivi, plutôt que d'avoir 15 chaudières à entretenir, avoir un suivi, et il peut y avoir des dérives dans chacune des chaudières. Après, je pense qu'il y a un volet, enfin, on pourra peut-être compléter, mais il y a un volet plus culturel, où les gens qui ont peut-être loué veulent individualiser leurs charges, et donc ça peut être le souci, parce qu'on a du mal à faire passer l'individualisation des charges au niveau d'un chauffage collectif.
Donc c'est bien sûr aussi notre analyse, hein, c'est beaucoup moins efficace d'avoir un chauffage individuel plutôt qu'un chauffage collectif, surtout dès qu'on est sur un combustible de type gaz. Maintenant, la réalité, c'est que autant d'ailleurs dans le neuf que dans la réhabilitation, que ce soit au niveau des clients, de l'acheteur individuel ou au niveau des promoteurs, la culture fait qu'on cherche à individualiser ses charges, donc à faire ce type de chauffage. Maintenant, ça c'est une vérité qui est encore assez d'actualité, mais moi je vois sur beaucoup de projets qui sont sur des démarches de qualité environnementale, le retour à un chauffage collectif pour justement améliorer le rendement.
Après, dans l'absolu, je dirais que chauffer une coquille déperditive avec une chaudière collective ou plein de chaudières individuelles, ça revient au même. Donc l'idée, c'est ce qu'on évoque là, c'est de travailler sur l'enveloppe pour avoir une enveloppe performante, et après, qu'on soit individualisé ou pas, le gain, il est là.
Les premières analyses que nous avons faites de nos factures de chauffage montrent que nous sommes passés à notre insu sur un système à l'insu de notre plein gré, sur un système dérégulé, et que le prix du gaz est très élevé en été, en hiver, et il chute en été. L'inverse. Il y a là-dessus, il y a quelque chose qui est pas très correct. On cherche maintenant à renégocier les contrats pour repasser sur des coûts de gaz, fourniture de gaz beaucoup plus stable.
Merci de votre témoignage. Il y avait une question du monsieur qui était là-haut. Ah, vous êtes rapproché. Pardon, je vous cherchais là-haut.
Bonsoir. Interrompez-moi tout de suite si je me trompe, parce que je suis pas électricien, je suis pas thermicien. Mais toutes les personnes qui ont des logements avec le tout électrique, merci EDF, c'est-à-dire chauffage électrique et cumulus pour chauffer l'eau. Ma question, c'est comment vous faites les bilans BES et comment vous faites le diagnostic pour estimer la consommation de kilowattheure en chauffage et en chauffage du logement et en chauffage d'eau. Puisque, à mon avis, il y a un compteur en entrée qui compte le nombre de kilowatts consommés, mais qui ne me dira pas, enfin moi ou okay. Comment vous faites dans une copropriété pour estimer? Et j'ai une remarque supplémentaire, j'étais un peu choqué, mais ça c'est personnel, hein, quand vous avez dit d'imposer aux gens, moi je suis pour la persuasion, l'adhésion, mais pas la contrainte, d'imposer aux gens de changer leur fenêtre, ça m'a choqué. Ça m'a fait penser, pourquoi pas imposer aux gens, que tous ces gens qui ont des logements vides, qu'ils ne louent pas, pourquoi ne pas leur imposer de les chauffer l'hiver, puisqu'ils participent aussi à la déperdition énergétique globale. C'est les autres qui chauffent pour eux. Donc dans cette logique-là, on peut aller loin.
J'ai fait exprès d'employer le terme imposer. Je vais répondre sur ça. Par contre, sur la thématique électricité, là, c'est pas possible. J'ai fait exprès d'employer ce terme-là. Parce que déjà, c'est un petit peu comme ça que ça a été voulu, on va dire. Parce que oui, c'est sûr, quand on a un logement vacant, faire changer les fenêtres, pas chauffer, enfin bon. Après, on a un autre problème, c'est que quand on réfléchit à la globalité du bâtiment, si on fait faire des travaux d'isolation, si on fait changer les fenêtres à la moitié de la copropriété et que l'autre moitié ne fait pas changer les fenêtres, tous les avantages qu'on pourrait tirer, on les tire pas. Qu'il y a certains copropriétaires, et je m'excuse s'il y en a, mais je pense plus particulièrement aux copropriétaires bailleurs,
leur raisonnement, c'est « Ah, mais de toute façon, je m'en fous, c'est pas moi qui paye les charges. » Oui, c'est vrai. Ah, je suis d'accord. Sauf qu'au-dessus, en dessous, il y a peut-être un copropriétaire occupant qui, lui, les paye les charges. Alors, je voulais livrer tel quel. De toute façon, on est bien d'accord, ça n'a pas été voté. Sincèrement, je pense que ça va l'être. Mais c'est aussi un outil qui, là, fait partie d'un texte de loi. Il n'y a pas les décrets d'application, il n'y a pas les arrêtés. Donc, la notion d'intérêt commun, c'est quoi ? À quel moment on a un intérêt commun ? Est-ce que c'est quand il y en a un qui n'a pas changé ses fenêtres ou quand ils sont 10 ? Est-ce que c'est quand une copropriété est classée délabrée et pas l'immeuble d'à côté ? Est-ce que c'est... Bon, franchement, c'était vraiment pour vous montrer que des difficultés législatives, il y en a. Je pense que vous les vivez tous. Et que le législateur essaye petit à petit de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie et d'essayer d'améliorer un petit peu ces grands textes qui s'appliquent pas à la vraie vie parce qu'ils en tiennent pas compte. Donc voilà. Donc c'était volontaire de parler d'imposer et en même temps je suis d'accord avec vous et d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé de dire et puis je pense que j'ai pas été la seule. C'est que à un moment donné le législateur vous l'imposera, ça se sera réglé, mais en attendant c'est pas le cas, il faut que ce soit porté, que ce soit quelque chose qui soit fait en concertation avec l'ensemble de la copropriété, avec le conseil syndical, avec les copropriétaires, quel que soit leur statut d'occupation du logement. Et voilà, s'il n'y a pas une envie commune, alors peut-être pas à 100% certes, mais je pense qu'il y aura des difficultés pour arriver à mettre en œuvre ce type de travaux qui peuvent être extrêmement lourds. Et puis, je pense qu'on vous l'a assez démontré. Merci, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Enfin, voilà.
Merci, Vanessa, pour cette réponse très complète. Et puis, pour compléter la première question de votre intervention, en fait, oui, effectivement, le bilan énergétique simplifié s'adresse plutôt effectivement à une gestion collective de l'énergie et pas vraiment un parc de logements qui serait individualisé avec du chauffage gaz ou électrique. Et donc là, en fait, l'ARC va sortir des cahiers plus spécialisés, des fiches plus spécialisées sur la consommation des communs. Alors après, voilà, cas de figure, un immeuble collectif privé, une copro privée, peut-être c'est dans votre cas, avec du chauffage électrique, mais il y a quand même des consommations communes, l'arrosage, les parkings, l'éclairage des communs, ascenseurs, autre chose comme ça. Donc là-dessus, on peut zoomer, on peut s'approprier, aller voir les consommations, aller voir les compteurs, prendre les factures et suivre un petit peu tout ça. Et puis, pour le reste, je dirais qu'après, vous avez un chauffage électrique, vous avez un chauffage gaz individuel, c'est à chaque copropriétaire, là, pour le coup, chez lui, de faire ce suivi. Mais là, ce sera pas un suivi qui sera collectif. Mais après, par contre, rien n'empêche d'avoir malgré tout une démarche à ce moment-là d'un prestataire, d'un bureau d'études, comme on l'a évoqué, qui diagnostique l'aspect thermique du bâtiment, qui pour le coup, lui, est commun à l'ensemble des copropriétaires.
Je compléterai quand on fait un audit énergétique, et ça nous arrive sur des bâtiments tout électriques, on essaye de récolter les factures de tout le monde. Et de faire la répartition des charges chauffage eau chaude plus autre usage de l'électricité en étudiant les scénarios d'utilisation. Après, c'est vraiment, on s'approprie le bâtiment, mais ça ne nous empêche pas de travailler, bien au contraire.
Merci beaucoup.
Encore deux questions. Je voulais juste revenir sur le problème des systèmes de chauffage collectif et de l'individualisation des charges. A priori, on peut aussi... Il n'y a pas forcément contradiction. On peut mettre des compteurs de charges individuels. Enfin, ce n'est pas tous les jours possible, mais ce n'est pas contradictoire tout le temps, en fait. Non ? Je me trompe ou... J'ai l'impression qu'il y avait fossé entre les deux.
Oui, mais c'est... Alors, ça coûte assez cher, un compteur d'énergie. Et on peut voir des promoteurs ou même des clients préférer d'investir sur une chaudière individuelle et de s'autogérer plutôt que d'utiliser des compteurs à énergie qui seront loués à un prestataire d'énergie avec des coûts de l'ordre de 150 € par an le compteur et avec en fait des difficultés techniques de fonctionnement où ponctuellement il va falloir les réviser et les remettre en place, quoi. Voilà.
On va prendre une autre question. Monsieur, il y avait une dame. Et, oui. Voilà. Et on continuera sur les interventions.
Rapidement, pour rebondir sur la question que posait madame. Il est possible, lorsque les copropriétés utilisent un mode de chauffage collectif, de poser sur les radiateurs des répartiteurs de consommation. Bon, nous avons fait la démarche d'interroger plusieurs prestataires pour savoir ce que ça coûtait. Grosso modo, ça coûte 9 € par an. Et par, c'est ça, 9 €, 9 €, 9,50 € par an et par radiateur. Donc c'est une dépense qui n'est pas conséquente et qui permet, si vous voulez, de faire payer aux consommateurs ce qu'ils consomment. Parce que c'est ça, dans la copropriété qui fait sujet, il y a des gens qui consomment beaucoup, qui s'occupent pas de savoir si leurs radiateurs sont embourbés, s'ils le sont pas, si les robinets fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, qu'ils laissent les fenêtres ouvertes parce qu'ils ont trop chaud. Il y a ce type de comportement. Et en sens inverse, vous avez des gens qui font attention à ce qu'ils dépensent. Alors je crois que la solution qui est intéressante, c'est d'amener chacun à se responsabiliser et leur facturer ce qu'ils consomment réellement.
Pour compléter en deux mots, il y a un arrêté qui existe qui oblige à poser ce type de système en fonction du coût de consommation d'énergie par mètre carré. Donc ça aussi, personne n'a l'air d'être au courant. C'est pas récent, hein, ça a plus de 20 ans. Donc,
le chiffre, il n'a pas été actualisé
Si, en fait, il a été plus ou moins actualisé par l'ADEME, en fait. Mais de toute façon, c'est pour vous dire que, bon, voilà, si effectivement vous voulez entrer dans une démarche comme ça, on vous parlait du législateur, de ce qu'il avait prévu ou pas. Voilà, ça, par exemple, il y avait pensé justement pour pouvoir favoriser. C'est pas pour favoriser l'individualisation du chauffage, c'est pas le but. C'est pour arriver à faire prendre conscience à chacun de combien ça coûte. Parce que voilà, quand on laisse les fenêtres ouvertes, on se rend peut-être pas compte que si on les avait fermées, on aurait peut-être économisé et puis économisé pour tout le monde.
Oui, sur ce que vous venez de dire, effectivement, le dernier texte sur le sujet était de 1991 et le texte de 91 prévoyait une dépense 40 francs par mètre carré sur la saison de chauffe 88-89. Le problème, c'est que l'ADEME aurait dû actualiser ses coefficients périodiquement et que ça n'a pas été fait. Bon, j'ai interrogé le ministère au mois de janvier cette année. Le ministère a bien voulu me répondre et m'a dit que ce dispositif de 40 francs le mètre carré, c'est-à-dire de seuil de dépense, allait être modifié. Ça fera l'objet de textes qui devraient intervenir cette année dans le second semestre et qu'on va remplacer ce niveau de dépense au mètre carré par un niveau de consommation en kilowattheure au mètre carré. Ce qui fait que ce niveau de consommation kilowattheure au mètre carré n'aura pas besoin d'être actualisé, il est défini une fois pour toutes. Donc il ne sera pas dépendant de l'évolution du prix des carburants.
Juste voilà, parce que je sais pas, c'est comme ça, 40 francs au mètre carré, moi je vous avoue que, je sais pas vous, mais moi ça me parle pas franchement. En gros, ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. Donc il y a beaucoup de chances qu'au prix des énergies, vous dépassiez les 40 francs par mètre carré. Hein. Je vous le dis, hein, que vous consommiez beaucoup ou pas. Hein. Donc bon, c'est voilà, c'est effectivement voilà. C'est ce qui est prévu. Par contre, bon, il y a des façons plus ou moins d'arriver à... Bon, juste pour vous dire que un arrêté existe et que il y a peut-être un moyen aussi de montrer que peut-être que si la loi était appliquée, ça marcherait des fois.
Merci. La moyenne des charges de chauffage nationalement, c'est de l'ordre de 7,50 € je crois par mètre carré. Donc effectivement, on est déjà au-delà en moyenne des 40 francs que vous citiez. On prend une dernière question et après on va enchaîner rapidement sur le reste des présentations, sinon on va vraiment dormir ici et les techniciens vont nous couper la lumière. Et madame, voilà, pour une dernière question.
Oui, bonsoir. C'était sur la formalisation, justement, comment imposer légalement et lors des assemblées générales, l'individualisation des frais de chauffage, donc le comptage, lorsque ça n'est pas prévu. Voilà. Et puis par ailleurs, en zappant sur les sites gouvernementaux, pour les fenêtres, il est question que ça passe c'est plus individualisé.
C'est un petit peu plus compliqué. Ça serait des parties privatives à usage commun. Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué.
Donc, ça serait mais plus privatif, ça serait collectif. Voilà, quel est le terme, je trouve.
Privatif à usage commun. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais
ça serait partie commune et plus partie privative, voilà.
Je vous dis, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça permettrait justement... Je pense qu'on va... Enfin, je veux bien, hein, il n'y a pas de souci, vous l'expliquez. Mais il y en a un là à côté qui va me tirer les oreilles. Donc, oui, il y a eu cette proposition qui a été faite. Mais ce qui a été retenu pour l'instant... On est dans des hypothèses, hein, c'est pas voté. C'est resté sur...
On va laisser Madame poser sa question, peut-être. Parce qu'en fait, elle n'a pas posé de question. Vous disiez... Non, il y avait une question d'abord sur le... comment faire pour imposer... pour imposer voilà, l'individualisation. Et après, vous avez une question sur les fenêtres, justement.
Oui, ça va dans ce sens. Mais bon, c'était surtout pour l'individu... Je ne vais pas y arriver. Pour les frais de chauffage, donc comment y parvenir lors des assemblées générales, comment formuler la question et pour, parce que les décrets ne sont pas appliqués. Il y a une loi en 73 ou 74 qui n'a pas été appliquée, 91 qui n'est pas appliquée. Donc, comment matérialiser, comment... soumettre la question à l'Assemblée générale.
Ça, c'est déjà le formuler à l'ordre du jour, mais c'est surtout voir si c'est... parce que, bon, la loi dit que vous êtes obligé de le faire, mais enfin, bon, il y a des fois où, techniquement, c'est pas possible. Mettre des répartiteurs de... Ou ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est peut-être aussi, avant d'aller imposer ça, on en revient à peut-être réfléchir à qu'est-ce qui est possible ou pas, et en fonction de ce qui est possible, bah, de proposer à l'ordre du jour, tout simplement, un devis à l'appui, que vous proposez d'installer des répartiteurs de frais de chauffage.
Enfin, c'est comptage,
Oui, un système de comptage, ou même d'individualiser le système de chauffage. Voilà, après, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais... C'est surtout, voilà, d'abord commencer par savoir qu'est-ce qui est possible d'être fait.
Non, c'est possible. Techniquement, c'est possible, mais comment...
Je pense qu'effectivement...
Pas juridiquement, mais comment...
Après, c'est la concertation. Légalement, c'est comme pour tous les projets en copropriété, c'est de la concertation en amont, c'est discuter, et c'est présenter un projet et pas arriver de but en blanc à l'AG et dire voilà ce qu'on a imaginé à deux ou trois, et puis oui ou non. Si les gens n'ont pas de quoi choisir, ils ne pourront pas faire sans connaissance de cause. Donc, c'est la démarche de monsieur, hein, faire des devis, demander, avoir des éléments techniques, et puis arriver en amont, peut-être faire des réunions peut-être un peu informelles avant l'AG, pour expliquer, détailler. Hein, je pense qu'il faut s'impliquer.
C'est un peu le résumé qu'on a vu. De l'environnement.
Exactement.
On peut s'inspirer de ça.
Tout à fait. On va enchaîner sur les aides financières, donc sur les types de projets. Et je suis désolé parce que sinon vraiment on va pas pouvoir tenir le timing. Il y a le pot qui est après dans la salle juste à côté, dans l'espace à côté. Là, on pourra complètement échanger de façon informelle. Hop.
Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les différents types d'aides financières. Dont on peut bénéficier lorsqu'on fait des travaux d'économie d'énergie en copropriété. Donc on distinguera deux types d'aides. Les aides dont on peut bénéficier collectivement et celles que l'on va faire jouer individuellement. Donc individuellement, c'est par exemple le cas du crédit d'impôt que chaque copropriétaire va faire jouer auprès des impôts par le biais de sa déclaration de revenus. Ou le cas aussi de l'éco-prêt. Où là, toujours pareil, c'est chaque propriétaire qui va aller demander à sa banque. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les aides individuelles. Donc, on a tout d'abord le crédit d'impôt, dont tout locataire, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur peut bénéficier pour une résidence principale. Donc, pour tout type de logement, donc qu'il soit ancien ou neuf. On peut bénéficier du crédit d'impôt pour tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, par exemple, le bois, le solaire, que ce soit pour le photovoltaïque, pour l'électricité ou pour le solaire thermique, pour le chauffe-eau solaire, mais aussi pour les pompes à chaleur. Par contre, pour les travaux d'amélioration thermique du bâti et d'amélioration du système de chauffage, là, le logement doit avoir obligatoirement plus de 2 ans. Donc, c'est des travaux tels que l'isolation des murs, le changement des fenêtres ou l'installation d'appareils de régulation. Par contre, précision, voilà, pour les propriétaires bailleurs. Peu importe le type de travaux qu'on réalise, dans tous les cas, le logement doit absolument avoir plus de 2 ans. En ce qui concerne donc les taux, par exemple pour le chauffe-eau solaire, 50%, donc ces taux sont appliqués sur le prix du matériel. La main-d'œuvre n'est pas comprise, sauf pour l'isolation, donc ici 25%, donc isolation des murs, toitures ou planchers, où là, cette fois-ci, c'est 25% du matériel et de la main-d'œuvre. Alors, on a des plafonds donc, pour ce crédit d'impôt. Donc, ces plafonds de dépenses, c'est bien le montant maximal auquel, après, on va appliquer donc, ces fameux taux. Donc, pour une personne seule, c'est 8 000 euros. Pour un couple pacsé ou marié, c'est 16 000. Et on ajoute 400 euros en plus par enfant à charge. Et pour les propriétaires bailleurs, là, ce sera 8 000 euros par logement dans une limite de 3 logements par an. Donc ensuite, on a l'éco-prêt qui permet aux propriétaires occupants ou bailleurs d'une résidence principale qui a été construite avant 1990 de financer les travaux donc avec un prêt à taux zéro. Donc on a une limite, on ne peut faire qu'un seul éco-prêt par logement. Donc là, on a deux options. Soit on fait ce qu'on appelle un bouquet de travaux, ce qui veut dire qu'il faut au minimum réaliser deux types de travaux parmi cette liste-là. Donc par exemple, si on a un changement de la chaudière collective par une chaudière à condensation, ça fait déjà un type de travaux. Ça veut dire que si un copropriétaire veut financer ce remplacement de chaudière par un éco-prêt à taux zéro, il peut y associer un deuxième type de travaux dans son logement, comme par exemple le changement de ses propres fenêtres. Donc quand on fait cette option et qu'on fait deux types de travaux, on a au maximum 20 000 euros de prêt à taux zéro et trois types de travaux et plus 30 000 euros. On peut aussi choisir l'option amélioration énergétique globale où là, en fait, le but, c'est de descendre en dessous d'un certain seuil de consommation. Et là, le budget, c'est 30 000 euros maximum de prêt à taux zéro. Et dans les deux cas, une fois qu'on a obtenu le prêt, on a deux ans pour réaliser les travaux. Donc, on n'a pas de conditions de ressources pour l'éco-prêt et pas de conditions de ressources pour le crédit d'impôt. Mais par contre, pour le cumul des deux, on en a une. C'est le revenu fiscal de référence qui ne doit pas dépasser 45 000 euros à l'année N-2. C'est-à-dire que si je fais des travaux en 2010... mes revenus de 2008 ne devront pas dépasser 45 000 euros.
Une précision sur le cumul des deux, c'est-à-dire que voilà, en fait, et ça c'est attention parce que c'est vraiment limité dans le temps, c'est dans le cadre du plan de relance, hein, du plan de relance décidé par le gouvernement. En fait, ça c'est valable jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin 2010. Donc jusqu'au 31 décembre, on peut cumuler les deux sous cette réserve-là. Mais après, en 2011, il faudra choisir. Soit on fait des travaux et on les finance, enfin, un type de travaux qu'on va choisir de faire, on peut le financer, on pourra le financer ensuite, soit avec le crédit d'impôt, soit avec l'éco-prêt à taux zéro, mais on ne pourra pas cumuler les deux. Là, c'est vraiment une fenêtre qui se ferme à la fin de l'année.
Donc ensuite, on a les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, et aussi les aides de l'opération Rénover pour un habitat durable et solidaire de Montpellier Agglomération. Donc là, c'est soit pour les propriétaires occupants à faible revenu, qui s'engagent à habiter ce logement en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans après les travaux. Et là, le montant des aides va dépendre des ressources du propriétaire, mais aussi du type de travaux qu'il effectue. Pour les propriétaires bailleurs, là, il n'y a pas de conditions de ressources pour eux. Par contre, ils doivent s'engager à louer le logement en tant que résidence principale pendant au moins 9 ans après les travaux. Et là, en fait, le montant des aides va dépendre du loyer qu'ils pratiquent. Plus le loyer va être bas, plus il aura des aides. Et également, ça dépendra aussi, comme le cas précédent, du type de travaux réalisés. Donc là, c'est le Pactero qui peut vous renseigner notamment sur ces deux aides. On a aussi la possibilité de faire contribuer le locataire aux travaux d'économie d'énergie. Donc là, on se base sur les mêmes types de travaux que ceux éligibles à l'éco-prêt, c'est-à-dire soit un bouquet, soit l'amélioration globale. Et pareil, le logement doit être construit avant 1990 et on peut répartir, donc on peut faire contribuer le locataire à partir du mois civil qui suit en fait la fin des travaux et ce pour une durée maximum de 15 ans. Donc là, on a également deux options. Soit on lui fait une contribution mensuelle forfaitaire, donc qui varie en fonction du nombre de pièces principales. Soit on fait un calcul des économies d'énergie potentielles par un bureau d'études. Et là, la participation du locataire sera au maximum de 50% des économies d'énergie estimées. Donc, je vais maintenant vous présenter les aides collectives. Donc déjà, pour une installation d'eau chaude solaire collective, on peut bénéficier d'une aide pour le prédiagnostic de 70%. Ce prédiagnostic doit être réalisé par un bureau d'études et il est obligatoire lorsqu'on a une surface de capteur supérieure à 20 mètres carrés. On a ensuite une aide à l'investissement lorsqu'on réalise les travaux de 1,20 € par kilowattheure d'énergie fournie. Pour cette fois-ci, donc le photovoltaïque qui est raccordé au réseau électrique et pour une puissance supérieure à 3 kW crête, là, on a toujours une aide au prédiagnostic de 70%, mais cette fois-ci, on passe sur une aide à l'investissement d'un euro par watt crête de puissance installée. Ensuite, on a l'aide pour donc tout ce qui est chaudière bois automatique, donc c'est-à-dire soit avec combustible granulé ou plaquette. Donc là, toujours le même principe, 70% pour l'étude. Et là, une aide à l'investissement qui représente 50% du surcoût par rapport à une installation standard, c'est-à-dire par rapport, si vous aviez changé votre, par exemple, votre chaudière gaz également par une chaudière gaz, on aurait estimé le surcoût et que le surcoût d'installer donc une chaudière bois par rapport à la chaudière gaz et vous auriez pu avoir 50% donc d'aide. Ensuite, pour les installations géothermiques, donc soit avec capteurs verticaux, soit sur eau de nappe. Pareil, encore 70% pour l'étude. Cette étude étant obligatoire, si on veut bénéficier par la suite de l'aide à l'investissement. Et là, on doit avoir dans cette étude le test aussi des propriétés thermiques du terrain. Et là, l'aide à l'investissement se fait toujours par rapport au surcoût à une solution à l'installation standard. Et là, le pourcentage se définit en fonction du projet. On a également des aides pour donc tout ce qui est rénovation, bâtiments basse consommation, c'est-à-dire des bâtiments performants en dessous du seuil de 64 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc là, on a une aide encore de 70% pour les études. Donc ces études, ça peut être soit un diagnostic énergétique, soit encore plus poussé, une étude d'optimisation dynamique, ou alors une étude de l'énergie grise des matériaux, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer. Et par contre, pour l'investissement, c'est pas une aide qu'on obtient systématiquement, c'est sous forme d'un concours régional, avec à la clé 80 euros d'aide par mètre carré. Enfin, on a le FEDER, donc qui fonctionne avec des fonds européens, où là, on a des aides entre 10 et 30% pour l'investissement, donc pour les travaux, qui varient donc en fonction des critères de ressources, donc basés sur les aides de l'ANA, mais aussi en fonction des performances thermiques. Plus on va descendre bas au niveau de la consommation du bâtiment, plus on atteindra les 30%. Et donc enfin, on a les certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle aussi les CEE. Donc là, en fait, c'est l'État qui fixe aux fournisseurs d'énergie un quota d'économie d'énergie à réaliser. Donc là, ils ont deux solutions. Soit ils réalisent eux-mêmes ces économies, soit ils les achètent à des tiers qui ont réalisé eux-mêmes des économies d'énergie. Donc c'est-à-dire que toute personne réalisant des économies d'énergie, donc par exemple vous, copropriété, vous pouvez aller voir donc les fournisseurs d'énergie et négocier donc des certificats qui vaudront pour quelques pourcents du montant global des travaux.
Alors, on a été, c'est un petit peu rapide, enfin, tout ça dégringole, les aides individuelles, les aides collectives, donc il y a beaucoup d'informations, bien sûr tout ça sera mis en ligne sur le site de l'ALE, et puis bien sûr on peut vous détailler à chaque fois, je dirais individuellement, en fonction des projets que vous avez, les différents financements possibles, hein, parce que là c'est un aperçu, je dirais, c'est pour vous mettre un peu entre guillemets l'eau à la bouche, pour vous montrer qu'il y a pas mal de dispositifs. Je reviens, voilà, tous les dispositifs, voilà les aides du FEDER, donc ça c'est les fonds européens qui transitent par la région pour aider des projets très spécifiques, ou les autres types d'aides. C'est-à-dire que pour l'instant, les copropriétés, on a assez peu de retours d'expérience de copropriétés qui ont fait des choses assez ambitieuses et assez intéressantes. On va voir quelques exemples, mais ça se compte pour l'instant un petit peu sur les doigts de la main. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, pour l'instant, c'est clair que il y a peut-être des opportunités là de faire des choses, d'être un peu les premiers, d'être un petit peu précurseurs, parce que les financeurs vont voir d'un bon œil arriver des projets, parce que pour l'instant, il y a pas beaucoup de références sur le territoire. Voilà par rapport à ça. Et voilà. c'est sûr qu'on va, on peut détailler un peu chaque chose. Peut-être, voilà, je reviens juste sur le volet. On a parlé des aides aux études. Voilà, là, aide à l'étude de faisabilité. Hein, qu'est-ce que c'est une étude de faisabilité? Ben, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur de l'audit énergétique qu'on a vu tout à l'heure. Autant l'audit, lui, il considère vraiment le bâtiment dans son ensemble. Il va regarder la performance globale, le bâti, l'isolation, la ventilation, vraiment très, très globalement. Et ben, l'étude de faisabilité, voilà, c'est beaucoup moins conséquent. C'est beaucoup moins, c'est moins de travail pour le bureau d'études. Il va zoomer, lui, vraiment sur une énergie. Et là, voilà, bah, si on décide de faire du solaire comme ci, comme ça, on va décortiquer un projet solaire, la taille des capteurs, voilà, c'est vraiment, on zoome sur une énergie. Voilà, ça, c'est une étude de faisabilité. Ça coûte quelques milliers d'euros. Hein, et effectivement, il y a une aide de 70%, donc c'est quand même drôlement intéressant. On enchaîne peut-être donc sur nos retours d'expérience, et puis après, on se laissera le loisir d'échanger, sans doute autour d'un verre, juste derrière, au niveau du bar. Alors je vais laisser la parole à monsieur Muzet, donc qui est président de la copropriété des Jardins d'Harmonie, qui va témoigner un petit peu de ce qu'ils ont pu faire ces derniers temps.
Voilà, donc notre copropriété est à Montpellier. C'est une copropriété neuve qui a été livrée en décembre 2007, janvier 2008. Il y a 3 bâtiments, comme on voit sur les photos, 55 appartements, et on voit aussi sur en bas à droite, sur le fascicule, là, qu'il y a des espaces verts. Donc je ne sais pas les mètres carrés, je n'ai pas réussi à les calculer, à retrouver le nombre de mètres carrés. Voilà. Donc nous, ce qu'on s'est attelé, c'était à suivre les consommations électriques, parce que moi, ça me paraissait énorme par rapport à l'équipement qui a été installé. Donc aujourd'hui, sur une copropriété livrée en début 2008, on va dire, on a quand même des éclairages halogènes. Je trouve ça impensable d'avoir ça en éclairage de haut, en continu, en 220 volts. Donc c'est ce qui consomme le plus, c'est ce qui est quasiment le moins efficace, hein, sur des éclairages qui restent allumés beaucoup. Donc on avait une consommation au départ qui tournait autour de 5000 à 5500 kWh par mois. Donc le pic ayant été atteint à 5652 et avec différentes interventions, on est descendu jusqu'à 2232. Mais on estime la moyenne raisonnable à 3000 kWh par mois. En fait, on s'est aperçu, on a fait des tests. Hein. Il y a un pointeur sur le... Ici, là. Voilà. Voilà, on a fait des tests. On a commencé par mettre le bâtiment 1 en économie d'énergie, donc pour faire un test, et on s'est aperçu qu'il y avait une réelle baisse de consommation déjà. Donc là, au niveau du conseil syndical, on a sensibilisé, et puis on a fait voter en assemblée générale de passer les autres bâtiments aussi en économie d'énergie. Économie d'énergie, ça a été le réglage des minuteurs qui était réglé n'importe comment. Hein, ça allait de un quart d'heure à une heure, le maximum étant une heure, hein, donc ils sont pas beaucoup embêtés à l'installation. Donc on a mis une minute, sachant que comme il y a un détecteur, c'est une minute après le dernier mouvement détecté. Donc et comme c'est très sensible, une minute c'était le minimum, hein, si j'avais pu mettre 15 secondes, j'aurais mis 15 secondes. Mais une minute c'est déjà largement, personne ne peut tomber sans électricité. Hein. Il peut pas y avoir de moment où il y a plus d'électricité. Les détecteurs sont très très sensibles. Ensuite, on est intervenu aussi sur l'horloge astronomique qui éclaire donc les espaces verts. L'horloge astronomique, c'est une horloge avec un GPS. Enfin, il suffit de mettre une latitude, longitude dans l'horloge, et puis elle s'allume en fonction de la position de la copropriété sur la planète. Donc ça fait bien comme ça. En fait, nous, on a mis ce point-là et on a mis une demi-heure après l'allumage théorique. Et on coupe une demi-heure avant l'allumage théorique. Ce qui fait qu'en gros, on est éclairé après les autres, et on coupe l'électricité avant les autres. Mais en fait, on y voit largement assez. Hein. On n'a pas eu de... En fait, les tests, hein, souvent, moi, ce que je fais un test, et puis je dis rien. Et si j'ai pas de réflexion, eh ben ça y est, c'est approuvé. Non, parce que si on pose la question en disant, voilà, on va enlever une demi-heure le soir, une demi-heure le matin, les gens vont dire, oulala, mais on va rien voir, etc. Donc le mieux, c'est de faire le test, et puis en fonction des retours, eh ben, ou on revient en arrière, ou on revient pas. On a fait un test aussi sur le surpresseur, on a 6 étages. Le surpresseur, il est tombé en panne pendant l'été, et quand on l'a mis, il est tombé en panne, il est resté 3 semaines sans fonctionnement, donc on avait le circuit avec la pression de la ville. Il se trouve que pendant 3 semaines, personne ne s'est plaint. Donc quand il a été réparé, je ne l'ai pas rallumé. Bah oui, bon là on a eu des plaintes, donc on l'a remis en route. Mais ça faisait un test objectif, parce que le but c'est d'avoir des tests objectifs, c'est pas forcément facile. Ensuite, au niveau de l'éclairage du parking, donc là, on a fait voter, puisqu'on avait des travaux à faire, on avait à peu près 600 € de coûts pour mettre l'éclairage du parking avec des ampoules à économie d'énergie. Pareil, on avait des ampoules à vapeur de sodium, à vapeur de mercure, pardon. Moi, je pensais que le mercure, c'était interdit dans les ampoules, mais non. Les ampoules à vapeur de mercure, donc de 90 watts. On est passé à des ampoules de 11 watts. Alors, évidemment, on voit un peu moins bien, mais comme le promoteur a bien fait les choses, ce sont des bornes qui mesurent à peu près 1,10 m et qui sont derrière les véhicules. Donc, une fois que le véhicule est garé devant, de toute façon, 90 watts ou 11 watts, le résultat est le même. Non, mais ça, c'est pour dire que aujourd'hui, on parle de choses, de rénovation, de choses comme ça, mais au niveau des promoteurs, c'est assez impressionnant le non-sens qui est apporté partout. Et puis, ils arriveront à le justifier avec vraiment beaucoup d'aplomb. Hein. Et c'est fait encore aujourd'hui partout. Hein. Moi, je suis en contact avec d'autres résidences neuves. Il se trouve que, visiblement, nous, on n'était pas les plus mal servis. Ah oui, c'est une catastrophe. Hein. Mais promoteur, c'est pareil, hein, c'est comme un bailleur, hein, c'est pas lui qui paye les charges. Donc, voilà. Et y a même des équipements qui correspondent pas au plan. Hein. On devait avoir des ampoules économiques dans les halls. Le spot coûte à peu près 50 €. En fait, au lieu d'en mettre un tous les 1,50 m, ils ont mis des ampoules halogènes qui, elles, le spot coûte lui-même 3 € en achetant ça en gros, et ils en ont mis tous les 50 cm. Donc on a sur un hall, on a 700 watts potentiels d'électricité. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc on a commencé par mettre une ampoule sur deux déjà. Enfin, de toute façon, comme elles grillent très vite, ces ampoules, il suffisait de pas les remplacer. Voilà, donc là c'est sur le bilan sur l'électricité. Ce qu'on voit quand même en bas, c'est qu'on a fait une réduction de 45% de 45% d'économie. On est passé en 2008 de quasiment 70 000 kW, en 2009 à 38 000 kW. Donc on a économisé 3 521 €. Voilà, donc ça c'est hors ascenseur, hein, parce que les ascenseurs, on les a pas pris en compte dans les réductions. Enfin, moi je prends escalier. Au niveau de l'eau commune, alors c'était bien pire. Le poste d'économie a été beaucoup plus impressionnant, puisqu'on est passé d'une moyenne mensuelle de 214 mètres cubes, donc 214 mètres cubes de consommation par mois, à 50 mètres cubes en 2009. En gros, en 2009, de 2009 par rapport à 2008, on a économisé l'équivalent de 45 piscines privées. 45 piscines privées, c'est énorme. Hein. C'est trois quarts de la piscine d'Antigone. La piscine d'Antigone fait 3700 mètres cubes. Donc ça faisait moins, en termes de chiffres, ça faisait moins impressionnant que 45 piscines privées. Donc j'ai laissé 45 piscines privées. Et en gros, là, on a économisé, donc en mètre cube, on a économisé 78%, et ça représente en euros 82%, puisque le prix du mètre cube a augmenté entre-temps. Donc on a économisé plus en euros qu'en mètre cube. Ça, c'est en faisant attention avec l'entreprise de paysagiste, en lui disant « je comprends pas, j'ai une grosse consommation, même si on n'avait pas encore relevé les compteurs ». On voyait qu'il y avait quelques fuites et on a commencé à l'alerter. Tant le promoteur au départ que le paysagiste. Et du coup, il semblerait que des tuyaux ont été changés. On n'a pas vu où, mais on s'aperçoit au niveau de la facture. Il y a aussi un poste, c'est que il a fallu identifier où arrivait l'eau pour les jardins, les espaces verts. Et il a fallu isoler la vanne d'arrosage. Parce qu'à chaque fois qu'on arrosait, c'est 5 mètres cubes et demi, 5500 litres chaque jour d'arrosage. Donc quand il pleuvait, moi je coupais la vanne. 5000 litres d'économiser à chaque jour. Sachant que quand il pleut, bah, on peut avoir 2-3 jours sans arroser. Donc ça c'est énorme. Il faut savoir aussi que dans des copropriétés à Montpellier, on plante du gazon. Du gazon dans le sud de la France. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs le grand n'importe quoi, la ville en fait autant, hein, puisqu'elle en met le long du tramway. Donc ça fait joli, mais c'est nous qui payons l'eau. Voilà. Et en plus de ça, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que tout cet arrosage-là, c'est le prix plein pot, hein, c'est 2,97 €, c'est de l'eau potable. Donc ça, c'est vraiment impensable d'avoir ça aujourd'hui, quand on sait combien ça coûte, quand on sait qu'il y a des pays qui sont en manque d'eau potable, qui sont obligés de désalinisé l'eau de mer, c'est impressionnant. Donc c'est assez consternant hein, quand même sur des propriétés neuves. Donc on peut faire plein de choses soi-même. Et nous, en termes de budget, voilà, ça représentait sur le budget de 2009, ça représente 14% d'économie. Donc c'est pas rien. Et c'est quasiment 10 000 euros. Voilà.
Merci beaucoup et bravo.
Merci à M. Muset pour son dynamisme. Vraiment, en deux secondes, je finis, voilà, pour des retours d'expérience. J'ai eu la chance d'aller à Grenoble, là, pour voir des rencontres, en fait, d'isolation, enfin, des rencontres sur la performance thermique du logement privé, et donc notamment de copropriété. C'était pour vous montrer un petit peu ce qui se fait ailleurs. Il y a des choses intéressantes. Juste à titre d'exemple, voilà, là, c'est une copropriété, en fait, ça, c'est un ensemble, mais il y a deux copropriétés, il y a deux gestions différentes, en fait, deux syndics différents, deux conseils syndicaux. Si on zoome un petit peu, sur la partie gauche, je vais reprendre le pointeur. Voilà, juste. Sur la partie gauche, en fait, il a été voté un simple ravalement de façade, donc quelque chose de simplement cosmétique, et sur la partie droite, ravalement de façade avec isolation. Donc vous voyez qu'au final, bah, globalement, le gars qui passe, on s'en rend pas compte. Hein, là, il y a 8 cm d'isolant qui a été rajouté en plus. Par contre, quand on passe avec une caméra thermique, hein, qui détecte les flux de chaleur, eh ben, on voit bien la différence. À gauche, ils ont une belle façade, mais ils se les caillent, entre guillemets. À droite, hein, ils ont une aussi belle façade. Par contre, les murs sont bien chauds. Et donc, ils ont moins de déperdition. Là, sur ce projet-là, donc dans le détail, avant, donc partie gauche, hein, qu'on peut considérer comme avant parce que rien n'a changé à part l'aspect cosmétique de la façade, ils étaient en catégorie D. Ça, je parle, c'est que pour le chauffage. Donc, j'ai pris un peu des libertés avec l'étiquette énergie, mais c'est pour que ce soit parlant. Ils étaient à donc 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et puis ensuite, après avoir fait ces travaux-là, il y a eu 37% d'économie sur le chauffage. Ça représente 290 euros en moyenne par lot d'économie de chauffage annuelle. Donc, c'est quand même assez conséquent. Autre exemple aussi, toujours à Grenoble, hein, là c'était le bâtiment tel qu'il était avant, c'est une cour intérieure. Hop, le bâtiment qui a été à la fois ravalé et isolé. Je montre la différence. Hein. Là, 15 cm de polystyrène a été rajouté. Donc on peut dire, bon, là ça va faire des meurtrières, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on voit avant, d'une, c'était pas forcément très très beau, mais après, voilà, c'est ravalé et ça fait pas forcément des meurtrières. Effectivement, il y a une petite profondeur dans les fenêtres. Un petit zoom aussi sur des points singuliers. On peut se poser des questions. Bah, qu'est-ce qui se passe avec les gouttières? Bah, il y a simplement un petit coude qui est rajouté pour permettre l'épaisseur d'isolant. Là, il y a un compteur gaz. Bah, pareil, hein, lui, ça fait un petit pont thermique. Hein, pour le coup, là, on n'a pas d'isolant, mais bon, on l'englobe dans l'isolation. Pareil, il a un petit zoom sur les points singuliers, le coin est vu d'en dessous. Donc, il y a une protection, bien sûr, d'un rail de départ, hein, la protection de l'isolant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est souvent dans les immeubles en bas, c'est souvent des garages, éventuellement des commerces. Donc, l'isolation va s'arrêter, en fait, en général à 2 mètres. On descend simplement pour englober aussi la dalle du bas, parce qu'elle peut être déperditive, hein, elle peut perdre de l'énergie. Donc, l'isolant descend jusqu'à la dalle du bas. Et puis ensuite, le reste est laissé libre pour éviter les accrochages ou les soucis. Les techniciens nous font signe d'accélérer. voilà, très rapidement, pareil, un autre exemple, hein, 15 cm qui ont été rajoutés sur un mur, pareil ici, avec des baguettes de protection, hein, pour éviter les accrochages. Là, un exemple local, le Crous. Alors, c'est pas une copropriété, mais c'est intéressant. C'est pour l'aspect architectural. J'ai pas les éléments techniques et économiques et énergétiques, mais avant, vous voyez, ça fait un petit peu... Pays de l'Est, on va dire, pour être très concret. Et voilà le travail qui a été réalisé, donc avec isolation par l'extérieur polystyrène, et un travail vraiment sur les façades, hein, l'ordonnancement des façades, un travail par un architecte. Bon, bah, clairement, là, le bâtiment, hein, c'est avant-après, c'est vraiment, vraiment édifiant, c'est intéressant de montrer qu'on peut aussi travailler sur l'aspect architectural. J'en finis, donc une installation aussi photovoltaïque, hein, monsieur Matou, le président du conseil syndical qui est ici, c'est la seule installation en copropriété photovoltaïque sur l'Anse de Crocillon, on peut la citer, 12 kWh, 87 mètres carrés, une production annuelle de 15 000 kWh attendue, l'équivalent de à peu près une petite dizaine de logements en énergie spécifique. Voilà, un petit déboire avec l'architecte des bâtiments de France, mais finalement le projet est sorti. Et voilà, dernière chose, une extension aussi à Montpellier, quartier de la Pompignane. Donc une extension avec du bois, la création d'une terrasse. Bon là, on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant. Et on organise des visites, nous, à l'ALE. Et donc c'est une installation qu'on va faire visiter ce samedi matin. Il y a encore quelques places sur inscription, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera en présence du propriétaire, du maître d'œuvre et puis de conseiller, bien sûr, de l'agence locale de l'énergie. Voilà, les liens utiles que vous retrouvez sur Internet. Merci de votre attention, on a été un peu charrette sur le temps. Merci beaucoup aux techniciens et puis bien sûr à l'accueil de la médiathèque Zola.
Merci beaucoup. Alors nous allons